Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Polysleep, une marque DC qui fait des matelas extraordinaires. L'hiver s'en vient, les amis. Évidemment, c'est important de bien dormir. Dormir à deux aussi, c'est pas toujours facile avec un vieux matelas. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas changé votre matelas, là, ça devient une espèce d'entonnoir humaine où les deux vont se ramasser au milieu, là, puis c'est pas toujours plaisant. Une espèce de tas d'humanité au centre. Donc, à vous de voir si ça vous tente de changer votre matelas. Bien, c'est le fun. Polysleep offre un rabais grâce au podcast. Écoute, ça, c'est le fun. Ils font aussi, Polysleep offre trois différents matelas pour les différents budgets, les différents besoins de sommeil aussi. Le rabais est disponible sur tous les matelas pour bébé, les surmatelas. Hein? Ça, ce sont, pour ceux qui ne savent pas, les surmatelas. Je l'ai dit déjà dans une autre ad, mais c'est vraiment un matelas qui combat le crime la nuit. Ce sont des surmatelas. Et en fait, ils font pas ça la nuit, ils font ça le jour. Quand vous êtes pas là, en fait. Quand tu dors sur un surmatelas, quand t'es pas dans la pièce, le surmatelas aide la communauté. Alors, tout ça, évidemment, avec une mousse antimicrobienne qui fait qu'il y a moins de microbes dans ton matelas. Et n'est-ce pas là le but de la vie, hein? En rencontrer le moins de microbes possible. Bref, donc il y a un code promo qui est valide jusqu'au 13 décembre. Ça vient très vite, les amis. Profitez-en. C'est Noël. Gâtez-vous. Donc, DJAY25 pour 25% de rabais sur les matelas, les oreillers, tout bref sauf les sommiers. Alors, profitez-en. DJ25, baby! Polysleep! Thanks again!
Une production du Studio SF.
Salutations, groupe. Encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discuter. J'espère vraiment, vraiment que vous allez bien. J'espère que le mois de décembre est doux avec vous. Encore une fois, merci tellement d'être à l'écoute de ce projet de cœur qui est le podcast pour moi. L'invitée d'aujourd'hui, c'est une fille que j'ai découverte relativement récemment. Je la connaissais de nom, mais je connaissais pas nécessairement ce qu'elle faisait. C'est une autrice, compositrice, interprète. Elle s'appelle Elisapi Isaac est son nom complet. Elle a fait la couverture du Elle Québec juste avant moi. Il y a quelques semaines de ça, lorsque la tragédie de Joyce Echaquan a éclaté malheureusement, Elisapi a livré un message vraiment, vraiment, qui m'a vraiment profondément touché sur les réseaux sociaux et je me suis empressé de lui écrire pour l'inviter à discuter, chose qu'elle a fini par accepter gentiment et généreusement. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Merci vraiment d'avoir cliqué sur ce podcast. Alors, je vous laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Elisapi.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est Jet Stock qui discute. Ouais, c'est Jet Stock qui discute. Ouais, c'est Jet Stock qui discute.
Ouais, c'est Jet Stock qui discute. Yeah. Yes, let's do it. Let's go back. Je te fais rire, c'est bien.
Mais t'es super drôle.
Ah, mais je suis super drôle. Je suis drôle, ouais.
Oui.
Je suis drôle, je pense.
Mais le pire, c'est que je suis pas du genre à faire beaucoup de recherches pour le podcast. Moi, dans ma tête, j'aime beaucoup vivre la rencontre.
Ouais.
Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre.
Ouais.
Et quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, je suis naturellement un petit peu plus nerveux parce que c'est quand même enregistré, whatever.
Ouais.
Donc, j'ai quand même observé quelques petits trucs que t'as fait, plus des entrevues. Je connaissais un petit peu ta musique.
Ouais.
Mais ce qui me frappait, c'est ton naturel. J'ai l'impression que t'es incapable d'être autre chose que toi-même. C'est l'impression que j'avais.
C'est soit ça ou c'est l'opposé.
C'est ça, il n'y a comme pas de milieu.
Il n'y en a pas vraiment de milieu, non. Alors, je pense que plus que je vieillis, tu sais, étant maman de trois enfants, à un moment donné, tu dis, OK, ben il faut que tu assumes à un moment donné, tu sais. Alors, je pense que je suis rendue là. Mais il y a des moments aussi, j'ai des grands doutes et soudainement, je vais rentrer dans ce côté beaucoup plus enfermé, beaucoup plus insécure.
Des doutes par rapport...
Ah, par rapport à qui je suis passée, j'ai souffert longtemps de ça.
Ouais.
Par moment, ça revient. Alors, des fois, il y a ça. Alors, les gens vont peut-être dire, ah, elle a l'air vraiment snob ou elle a l'air vraiment sérieuse.
Snob?
Pas snob, mais... Garde distance. Ouais. Tu l'as pas vu ce côté-là?
Non, pas du tout, parce que dès que t'es rentré, tout de suite, on est rentré dans une petite anecdote où t'as enlevé tes souliers, puis tu nous expliquais que dans ta culture, il faut enlever les souliers en entrant dans la maison.
Ouais. C'est ça, c'est rendu, je pense, beaucoup plus. Je vais direct dans des choses parce que. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, que j'ai un peu délaissé beaucoup de choses qui étaient naturellement un rythme de vie, une façon de voir les choses qui vient de chez nous.
Comment tu t'es rendu compte de ça?
J'ai fait un genre de burn-out, une dépression après mon deuxième enfant. Puis j'ai vraiment réalisé, oh my God, je me suis fragilisée beaucoup parce que j'ai réalisé que j'ai fait beaucoup de compromis pour m'adapter à ce monde qui n'était pas du tout proche de la façon d'être dans mon petit village de 1300 personnes que j'ai laissé. C'était probablement même pas 1000 personnes encore, tu sais, isolées. On prend l'avion pour se rendre chez nous.
C'était au Nunavik.
Au Nunavik, oui.
C'est quoi le nom de la ville?
Saluit. C'est pas une ville, c'est un village.
C'est un village.
Ouais.
Et t'as été là combien de temps? T'as grandi là jusqu'à quel âge?
Je suis venue à Montréal à 22, 23 ans.
Fin des années 90, pour les études.
Ouais, 80, exactement. Attends, on est quoi? Non, 80. Oui, fin des années 90, 2000 à peu près.
Donc, t'as passé de Saluit à Montréal direct.
Ouais.
Pas de milieu, là.
Pas de milieu. J'ai fait une année à Coudjouac. Coudjouac, pour nous, c'est le sud.
Ouais.
Ouais. Parce que nous, tu sais, moi, je suis vraiment au bout à Saluit, tu sais.
Ouais.
Coudjouac, tu descends tranquillement vers le sud et Montréal est là. Alors, pour moi, Coudjouac, pour nous, c'était le sud parce que s'ils ont des arbres, tu sais, les arbres commencent.
Ouais.
The tree line. Alors, pour moi, à Coudjouac, quand j'étais jeune, c'était vraiment exotique. J'avais presque peur, tu sais.
Incroyable.
C'est pour te dire.
Et qu'est-ce que tu as remarqué que tu avais délaissé? De Saluit ou ton enfance?
Le côté simple des choses, un rythme qui est réellement... c'est encore en moi, là, le rythme de la notion de temps, les relations avec les gens.
Quand tu dis ta relation au temps, c'est que c'est plus calme?
On n'a pas de notion de temps. L'horloge, c'est comme une décoration, pour vrai. Je suis toujours en retard, mais je m'améliore beaucoup. Comme là, j'ai dit, je ne peux pas arriver à une place, arriver à l'heure. C'est comme, il y a quelque chose puis mon entourage, ça a été l'enfer, là. Ça n'a pas changé. Ça s'est amélioré, puis à un moment donné, je me suis arrivée un petit peu avant. J'ai dit, wow, OK, c'est comme, encore une fois, il n'y a pas le milieu, tu sais. Mais ces choses-là aussi, c'est parce que, pour moi, c'est pas grave que quelqu'un arrive 5-10 minutes en retard.
Je
pense que c'est grave pour les gens qui ont été élevés, qui ont été dans un entourage où c'est absolument ça. Puis des fois, je trouve qu'on manque des occasions magiques, extraordinaires, en ayant trop... OK, c'est ça qui va se passer.
Le plan.
Stick to the plan. Tu sais, chez nous, quand tu dis, hey, disons que j'arrive à Saluit, puis premièrement, toute ma famille, toutes mes amis sont comme, OK, viens. Il dit même pas viens, tu vas y aller anyway, right?
Yeah.
Et puis dire, demain, on fera un lunch ou whatever. Ça, c'est assez précis. Mais le reste, c'est, on se voit demain, tu sais.
C'est jamais, il n'y a pas d'heure.
Puis tu ne rentres pas chez les gens en cognant la porte, tu rentres chez les gens.
Quelque chose de très ouvert, très chaleureux, très accueillant.
Oui, totalement. Ouais, tout le monde est ta famille, finalement. Ouais.
C'est drôle parce que, on dirait, moi, je sais que j'ai toujours peur d'être en retard. Je suis toujours pressé, jamais en retard.
Ouais.
Je suis toujours serré.
Ouais.
Et je me mets dans des états, là. Je me mets à l'envers parce que je vais être en retard. La pire fois, je suis arrivé en retard à un show, je l'ai déjà raconté sur le podcast, j'ai été à l'envers tout le spectacle. Et en revenant après encore, j'ai été à l'envers pendant quelques jours à ne pas me pardonner alors que c'était une erreur, ou tu sais, du moins, c'était pas volontaire, évidemment, tu sais. Mais la crainte que les gens d'arriver devant une salle vide, tu sais, des gens qui quittent. Puis ultimement, tout le monde est resté jusqu'à la fin, tout le monde était super gentil. Mais moi encore, dans l'espèce de culpabilité, probablement de la société dans laquelle je vis, super serré, puis je me mets ses nerfs, là.
Ouais.
Puis je pense qu'il y a quelque chose de bien de viser la bonne heure, là.
Ah, mais je suis d'accord. Moi aussi, je tout le temps, quand je cours, et surtout j'ai 3 enfants,
ben oui.
Alors c'est beaucoup de gestion, beaucoup de tournées, beaucoup de rendez-vous, j'en ai eu. Puis j'arrive à être à l'heure maintenant, tu sais, à peu près, là.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi aussi, je cours, puis je me dis, OK, il faut que je fasse un compromis, il faut que je fasse une décision de dire, être un peu plus, de viser pour être bien quand t'arrives à une place au lieu de, parce que je deviens un paquet de nerfs.
Ouais.
C'est parce que je suis stressée, puis je suis en retard, alors je fais endurer les gens alentour, j'appelle mon gérant, après mon chum, puis c'est comme, c'est pas cool.
Non, c'est pas cool.
Alors, oui, il y a un compromis à faire.
Ta perception du temps, tu disais que te retrouver, du moins le calme par rapport au temps. Quoi d'autre que te retrouver que tu trouvais que tu avais un peu laissé de côté de ton enfance ou de qui tu étais avant?
Je pense que c'est le rapport avec les gens. Je pense que c'est juste réaliser que j'étais trop comme ça, tandis qu'il faut juste lâcher prise et laisser aller, simplifier la vie aussi. Tu sais, j'ai toujours aimé que la vie soit compliquée, que ça soit... Puis je réjouis maintenant des choses simples. Mais en même temps, quand c'est le retour à la création, je vais vite rentrer dans cette bulle des choses complexes, des choses dont on doit réfléchir. Je pense que c'est les relations avec les gens qui ont changé, ouais.
Ça, est-ce que tu penses que ça a rapport avec le fait que tu es devenue mère, un petit peu?
Oui, sûrement. Mais j'ai jamais aimé l'idée qu'on... Tu sais, les gens me disaient, « Ah, tu vas écrire des belles chansons, tu dois écrire des chansons pour des enfants. » Je disais, « Non. » Why? C'est comme, il y a d'autres choses que les enfants. On est mère. Moi, je suis née déjà maman. À la limite, tu sais.
Mm.
C'est quelque chose qui est en moi, c'est naturel, c'est très naturel de prendre soin des autres. Alors, je pense que ce qui est le plus dur, c'est de prendre soin de soi.
Exact, c'est ce que j'allais dire.
D'être cool avec soi. Je dis à ma fille d'être cool avec elle, avec elle-même, mais elle ne peut pas faire ça si elle voit sa mère ne pas faire. Alors, je pense que c'est vraiment être en symbiosité avec toi-même qui fait que le reste, tu devrais aider quand même tranquillement tes enfants à aller à la bonne place s'ils ont ça, ils voient quelqu'un qui se respecte.
Mm-hmm.
Alors, je pense que ça m'a donné quelque chose d'extraordinaire. Mes enfants aussi, c'est mes grands professeurs, tu sais.
Ouais.
Ah oui, oh my God, c'est fou, là. C'est comme si... Je refais un peu ce que j'ai pas eu, tu sais, je revis des choses, d'être entendu, d'être nourri, d'être toutes ces choses-là. C'est le bonheur de vivre ça. C'est sûr que j'ai toujours un peu de vertige, là. Je suis comme, je fais-tu les choses à la bonne manière parce que j'ai pas été élevée rassurée, tu sais.
Ouais.
Alors, j'ai toujours besoin d'être rassurée, puis c'est un peu un vertige de pas avoir l'habitude d'avoir quelqu'un. Tu sais, j'ai pas des parents que j'appelle. Mes parents sont décédés.
Ouais.
J'ai pas ce genre de...
C'est essoufflant aussi d'être agité constamment sans que tu t'en rendes compte. Comme enfant, c'est sûrement arrivé à l'âge adulte de réaliser, « Ah, mon Dieu, dans le fond, j'ai jamais été certaine.
Ouais. »
C'est essoufflant de tout le temps avoir le réflexe de regarder derrière ton épaule, faire « C'est-tu correct où je vais? » Puis d'avoir personne qui dit « Oui, oui, c'est correct.
Ouais.
On est là, continue. » Moi, j'ai eu cette chance-là, puis je dis vraiment chance parce que c'est une chance d'être né dans cette famille extraordinaire.
Mes enfants ont de la chance.
Exact.
Moi, je leur dis pas tout le temps, là, mais des fois, je me dis « Hey, guys, c'est... »
Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, tu as été adoptée,
ouais.
mais par une famille qui habitait dans le même village que ta mère biologique.
Dans la famille, à l'intérieur de la famille.
Donc, ce rapport, je t'écoutais à Il y a du monde à messe, émission que j'adore, de, animée par Christian Bégin, où tu as passé il y a quelques années déjà.
Il y a un an à peu près. C'est ça. Ouais.
Et où tu racontais ça aussi, cette espèce de. C'est un drôle de rapport aussi, quand même, d'avoir ta mère, tu sais, tes parents adoptifs, ta mère biologique présente, que tu cohabites, que c'est su. À quel moment tu as réalisé, ah, OK, c'est spécial, cette vie-là?
Juste quand j'ai vraiment fait de ma dépression, ce qu'on appelle le postpartum, là, ouais. Mais c'est beaucoup d'autres choses. Hein. Je pense que ce n'est pas juste un postpartum, c'est ton âme, c'est ton esprit qui a besoin de lâcher prise, de vivre des choses et faire face à des choses. Alors, vraiment, il y a quelques années, mon fils, il a 6 ans et demi maintenant. Et alors, il y a 4 ans à peu près, j'ai vraiment réalisé... OK. Pourquoi j'ai des bobos, là? Tu sais, c'est pourquoi je... Puis je me suis dit, je vais aller un peu en arrière. Il doit y avoir un truc qui traîne. Finalement, je suis allée à ma naissance... C'est très fort comme expérience, comme réalisation. Quand t'es maman, surtout, puis quand t'as passé ta vie à être forte, soudainement de dire « Ah! Oh, I have to go back! » Je dois retourner à ce petit bébé nouveau-né. C'est comme... Alors, c'était un processus, tranquillement, aller vers recomprendre réellement la relation avec ma mère biologique, qui est super cool.
Ouais.
Toujours été cool. Ça a été une femme qui m'a inspirée. C'était une femme moderne comparée de mes parents, plus âgée. Puis c'était quelqu'un que j'ai toujours admiré, que je sais comme c'était comme une amie, tu sais.
Mm-hmm.
Et j'ai réalisé cette relation. Je pense que c'est une relation que un peu comme un fairy tale que j'ai inventé. Puis c'est là que j'ai réalisé. C'est pas vrai, c'est pas sincère, tu sais. Alors, je me suis mis à douter de cette relation-là, de la vérité entre nous. Finalement, c'était... It was all real. C'était vraiment...
C'était ça.
Je pense que ce que j'avais besoin de savoir, c'est de me poser la question, de l'entendre, de voir si elle m'a... De l'entendre dire, oui, je t'ai aimé à la naissance.
Mm-hmm.
C'est ça qu'on veut tous, je pense.
C'est clair.
Ouais. Puis elle me l'a dit.
Et c'est très puissant, j'imagine.
C'est très, très puissant. J'ai posé ces questions-là. En plus, tu sais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Una pour mon album. Et ça a pris du temps à le faire. J'ai finalement réussi à l'écrire. Puis ça, c'était vraiment important. Puis elle l'a entendu pour la première fois live à ma première Montréalaise devant tout le monde. Puis c'était un moment très fort. Elle est venue me voir backstage.
Fait que là, elle était dans la salle.
Elle était à Montréal par hasard.
Incroyable.
Ouais.
Des frissons, c'est quoi les chances, tu sais?
Mais c'est des choses que je peux pas vivre intimement avec elle.
Ouais.
Alors, c'est le fun de pouvoir dire, hey, j'ai un spectacle. Oh, j'ai écrit une chanson de... OK, oh oui. C'est comme je suis un peu... On est un peu protégé de l'affaire, tu sais, l'affaire, le spectacle.
Et toi, mettons, l'écriture de la chanson, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as vécu cette espèce de d'intensité-là.
D'ouvrir un peu, de défaire des choses, des nœuds qui fait mal. Puis c'est... Déjà ça, c'était une expérience.
Ouais.
De le faire entendre, qu'elle vient backstage, devant tout le monde, était comme, c'est là, OK, c'est... Parce qu'ils savent que cette chanson-là est immense pour tout le monde, même pour les musiciens, les gens avec qui j'ai co-écrit, Joe Grass, tout le monde était là. Et ils savaient que c'était la première fois qu'elle allait entendre la chanson.
Étais-tu nerveuse quand tu l'as jouée?
Non.
T'étais encore une fois dans le spectacle.
Encore une fois, je suis là, je donne. Il faut que je donne à ces gens-là.
Ce que tu sais faire.
Je pense qu'il faut. Puis il faut rester focus là-dessus. Puis quand on s'est donné un hug, c'était tout doux. Puis hug, finalement, on voulait plus se lâcher parce que les deux, on allait pleurer.
Mm.
Alors c'était plus long. Puis c'est comme. Mais encore une fois, contrôlé.
Ouais.
Puis, 6 mois après, j'ai fait un vidéoclip sur cette chanson-là. Puis, par hasard, encore une fois, elle s'en allait à Montréal pour un truc à l'hôpital. Puis, j'ai dit, ben pourquoi je ferais pas un part two? J'ai fait un part three.
Ouais, c'est ça, j'ai
un, deux, trois. Puis le troisième, c'est quelques minutes d'entrevue avec elle, puis lui poser des questions vraies, puis dire, c'était comment quand tu m'as vu la première fois? Personne m'a dit ça. Je sais c'est quoi avoir un enfant, c'est un bonheur de voir. Tu sais, moi, j'ai besoin de savoir. Puis ça me gênait parce que je me dis, c'est tellement égoïste dans ma tête de vouloir savoir. Dans nos traditions, les Inuits, nos coutumes, l'adoption, c'est un mode de survie dans le temps pour aider les gens qui ne pouvaient pas en avoir.
Ouais.
Alors, tu donnais un enfant. C'est très naturel, tu sais. Mm-hmm. On ne parle pas vraiment de ces choses-là, de notre adoption et tout. Alors, ouais. J'étais un peu gênée, mais ça me prenait la caméra. Et là, on a pleuré ensemble. Parce que c'était très touchant. Père s'est mis à pleurer quand elle a décrit comment... Elle dit en anglais parce qu'elle ne peut pas parler en français pour l'entrevue. Puis elle a dit des petits mots en anglais. Puis elle dit, You were beautiful. You were very beautiful to me. And you had big eyes. And you were very much beautiful to me. T'sais, elle s'est mise à vivre ce moment-là. J'étais comme, wow, OK. Elle m'a aimée, tu sais. Alors, on s'est mis à pleurer, puis ces pleurs-là qu'on entend, c'est des pleurs qui viennent tellement loin. Tu sais, j'ai toujours pensé, ah, c'est mes peines d'amour, je pleurais intensément pour ça. Finalement, là, ça, c'est rien à comparer de ce que j'ai vécu. Puis, en tout cas...
Ça a dû être libérateur, rassurant.
Oh my God, oui!
Sans dire que... Je sais pas pourquoi la notion du pardon vient sans dire que tu y en tenais rigueur,
ouais.
Mais on dirait qu'inconsciemment, à ce moment-là, il y a quelque chose de comme...
Ça se fait tout seul, ouais. Finalement. J'ai pas besoin de dire « je te pardonne, je me pardonne ». Tu sais, c'est...
Tu l'as senti dans ton corps.
Ouais, ces gestes-là ont été vraiment, vraiment, vraiment puissants. Ouais. Et je me dis, OK, maintenant, je devrais bien aller. Mais non, c'est toujours, on est toujours complexe, on a toujours des trucs. Mais disons que je suis beaucoup moins insécure, je suis beaucoup moins dans le... I'm like, je me sens plus posée.
C'est extraordinaire.
Oui, c'est génial. C'est génial de le faire aussi, pas à 65 ans.
Ouais.
Tu le fais quand t'es en forme, quand tu deviens femme... 40 ans, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme ça que je me sens. Je me sens plus, tellement connectée plus à moi. Alors, je me sens automatiquement beaucoup plus le bonheur. Je me sens beaucoup plus la beauté, tu sais. Il y a plein de choses que...
Tu te permets plus de vivre ces choses-là.
Ouais, puis j'apprends aussi de vivre avec mes imperfections, puis dire... pas grave, ça.
Ouais.
Il a fallu que je sois parfaite tout le temps pour les autres. Il a fallu que je vivais beaucoup pour les autres, finalement, parce que j'avais si peur qu'on va découvrir que je suis pas si, que je suis pas ça, mmh. Tu sais.
Mais ouais. Le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aussi inconsciemment qui finissent, tu sais, justement, c'est aussi très généreux. Un spectacle, c'est généreux. Un album, c'est généreux. De la musique, c'est... Oui, c'est personnel, puis c'est un processus qui fait du bien, mais en demeure pour moi que tu donnes constamment et tu reçois aussi une validation qui fait qu'inconsciemment, des fois, tu finis par te dire comme, ah, tu sais, sans cette validation-là, est-ce que moi, je suis correct avec moi? Tu sais, est-ce que je suis bien sans ça? Tu sais, qui fait qu'inconsciemment aussi, des fois, on finit par... Moi, c'était ma crainte quand j'ai commencé à faire des spectacles de faire comme... Ça m'a aidé à me faire poser des questions parce que je me disais, ah, qui suis-je? Je suis qui? Pourquoi les gens se tairaient pour m'écouter? Est-ce que j'ai besoin de ces gens-là pour moi être bien avec moi ou est-ce que moi seul, je suis bien? C'est quand même des grosses questions aussi. Ouais. Puis c'est facile de se poser ces questions-là quand les gens sont là.
Ouais. Mais je pense qu'on est fait pour ça aussi, non?
C'est ça, je pense.
C'est comme... C'est vraiment... Il faut être vraiment intelligent hein, pour pouvoir donner, puis recevoir, puis le prendre, mais à une bonne dose, là, tu sais. Mais aussi de... Je pense que quand on se questionne trop, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est là que je pense que la générosité qu'on est supposé de, en tout cas, je crois sincèrement à ça, de donner aux gens qui collent une gardienne, qui écoutent ton album, qui achètent ton album, mm-hmm. qui bercent leurs enfants avec ta chanson ou qui font l'amour avec ta musique. Tu sais, c'est pour moi, là, c'est une reconnaissance extraordinaire. Les spectacles que je donne, j'envisage déjà au moment que je rentre en studio, puis on commence. C'est le public qui m'inspire. Je dis, OK, quand je vais faire cette chanson-là, qu'est-ce que je vais vouloir sentir sur scène? Parce que sur scène, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est extraordinaire. Tu sais, le sentiment de te mettre à nu, là.
Ouais.
De dévoiler quelque chose plus grand que toi, à la limite, parce que ce que les gens voient n'est pas toujours nécessairement ce que tu sens vraiment dans la vie tous les jours. Mm-hmm. Il y a quelque chose, une dimension avec la musique, les images, l'éclairage, l'ambiance, la vibe de chaque pièce où tu joues. Il y a quelque chose qui se passe.
Surtout, je trouve, dans les shows de musique.
Ouais.
Je trouve, sans rien enlever au show d'humour, moi c'est du stand-up, puis je trouve ça romantique à souhait, puis j'adore ça, puis les gens qui écoutent le podcast le savent. Mm. Mais les shows de musique, c'est autre chose. J'ai jamais eu autant de frissons dans ma vie qu'en assistant à certains shows de musique.
Mm-hmm.
J'ai jamais crié autant dans ma vie qu'en assistant à certains shows de musique. J'ai jamais dansé autant dans ma vie qu'en assistant à des shows de musique. J'ai jamais, tu sais, pleuré à une intensité. Il se passe quelque chose. C'est extraordinaire.
C'est tellement important en tout cas, moi, ma job dans la vie d'artiste, c'est arriver à, pas la perfection, mais cette chose dont tu devrais réfléchir, mais réfléchir avec ton cœur, tu sais, bien s'entourer, parce que tu veux donner ce qui est, en tout cas pour moi, ce qui est rare, tu sais, c'est très rare dans la vie tous les jours de manipuler les choses pour arriver à une émotion, pour que les gens qui le voient, qui puissent vivre une expérience, en tout cas, c'est tellement le fun, j'adore ça.
Mais puis là, tu parlais de perfection, tu sais, je me souviens, un des derniers shows que j'ai vu avant que tout ça cesse, c'était Patrick Watson au MTLUS en décembre passé, puis il y a une chanson où une de ses choristes vient, elle chante le refrain avec lui, ou je sais pas si c'est le refrain, mais bref, il y a une partie de la chanson où c'est elle qui chantait, et finalement, il a chanté, puis il a senti qu'à côté, il chantait sur le même micro, puis il a senti que il a catché pendant la toune que, je l'ai coupé. C'était à son tour de chanter cette ligne-là, mais je l'ai chanté.
Ouais.
Et tellement, ça m'a marqué parce que pour lui, c'était pas une erreur. C'est comme, on jam ici, là. On est ensemble. C'est un show.
Ouais.
Et il y a personne qui a arrêté. Peut-être, timeout, on s'est trompé. Il a juste fait comme, oh no, OK, guys, continuez. Vas-y, faites-le. Il a repris sa phrase, elle a chanté. Et je me souviens avoir observé ça. Je t'en parle, j'ai des frissons faire. Ah, tout ça, c'est vrai.
Ouais.
C'est vivant. Mm-hmm. C'est vulnérable.
Ouais.
Et c'est pas une erreur. C'est une célébration. C'est un partage. Ça m'avait fasciné.
J'adore ça. Je pense que ces moments-là sont mes préférés, honnêtement. Autant que je j'aime pas ça, là, mais il y a quelque chose qui nous ramène tout de suite à... Oh, on est un peu fragile, tu sais. Alors, qui fait qu'après ça, on est encore plus...
Proche. Y a quelque chose...
Ouais, avec le public, avec les musiciens aussi. Ouais.
Et toi, à quel moment t'as réalisé... Comme, te souviens-tu de ton premier show?
Mon premier show que j'ai vu?
Que t'as vu... Du moins, à quel moment t'as fait « Oh my God, ça a l'air incroyable faire ça. » Et toi, la première fois que t'es montée sur scène?
Ça par rapport, ça se passe à Salute. Le groupe de mon oncle des années 70 s'appelait Sugluck Band. C'est du un peu surf rock, Inuit, des hippies.
Oui.
Puis c'est vraiment bon. Ils sont très connus chez nous, au Nunavik, au Nunavut aussi. Quand je les ai vus, je me souviens d'avoir monté la petite côte vers où il y avait l'aéroport, tu sais, dans le temps.
Ouais.
Je marchais avec mon papa. Puis on s'en allait apparemment à un concert qui est à l'extérieur, on a fait un stage. Puis je les ai vus, je me suis assise, j'ai dit « Wow! » Tu sais, je sais pas quel âge que j'avais, mais ça, c'était le groupe, le groupe de mon oncle biologique, les frères de ma mère biologique. Alors, je pense, depuis ce moment-là, j'ai décidé « OK, that's my family. » C'est comme...
Ouais.
Je pense que c'est une famille très musicale aussi. La première fois que j'ai chanté par ce groupe-là, j'ai été invitée de faire la choriste.
Ah!
Oui, j'avais 15 ans.
C'est bien cool!
Oui, c'est très cool.
Wow!
Oui, mais tu joues avec mon oncle.
Mais quand même!
C'est pas un jeune...
Mais le band qui t'a donné le goût de faire ça...
Ben oui, it was huge. Pour moi,
c'était... Ben oui, je comprends donc.
Ouais. Et j'ai fait ça devant... À Nunavut, il y a un festival à Cape Dorset, King 8, et on s'est rendu là, puis c'était mon gros highlight.
T'étais-tu nerveuse?
Oui.
C'est sûr.
Oui, oui, oui. Après ça...
Et ça avait bien été?
Ça a très bien été.
Et est-ce qu'en débarquant de scène, cette fois-là, t'as fait « OK, oui, c'est ça, il n'y a pas de plan B. »
Non, toujours pas. C'est des choses que tu fais pour le fun, on the side, dans le nord. Tu vas pas faire une vie, tu vas pas gagner. Je pense que c'est vraiment au moment que j'ai entendu une fille qui a fait un album, Susanna Glucard, son nom, plus connue dans le monde anglophone canadien. Elle vient de Nunavut, puis j'avais à peu près cet âge-là, 15-16 ans. Puis quelqu'un l'a mis, je l'ai entendu, j'ai dit, what? Une fille, une Inuk peut faire ça? Peut faire un album?
Pour toi, ça se pouvait pas.
Ben non. C'est
parce que t'avais pas, encore là, on revient à la représentation.
Ben oui.
Ça, tellement important de se voir. Là, on dirait que tu t'es vue.
Oui, Susan nous a ouvert quelque chose de très, très fort. Et après, quand je suis venue ici, ça m'a pris du temps aussi. J'ai vraiment pris mon temps. Finalement, j'ai rencontré un gars avec qui j'ai collaboré pour faire Taïma. On était un duo. Mais notre premier spectacle, à Montréal, ça s'est fait au coup de cœur francophone, au Lion d'Or.
Ouais.
À ce moment-là, le monsieur Spectra était là, Lassa de Sela, elle voulait me parler après le show pour me dire qu'elle a pleuré. C'était ça mon premier spectacle.
Et là, toi, tu étais encore aux études? À ce moment-là, tu avais arrêté, tu faisais de la musique?
Non, j'ai préparé l'album avec Taïma, ouais. Alors, ça a été vraiment un choc. C'est vraiment dans un beau lieu, quand même.
Hein, c'est beau, Lion d'Or.
C'est intime. Il y a quelque chose de... Alors, ouais, c'était assez... Wow, OK. J'aurais pu juste commencer dans un petit bar, quelque chose comme ça. Ouais.
Et ensuite de ça, le contrat de disque est arrivé et ça a parti.
Ouais. Ça n'a jamais arrêté.
Incroyable.
Ouais. Oui, il y a eu des bouts où je me dis, OK, comment je vais faire? Mais j'arrive toujours, tu sais, j'arrive toujours.
Et est-ce que le fait de devenir mère, ça a changé ce rapport-là à la musique ou à la tournée, à la carrière?
Non. Mais oui, dans le sens où il faut être organisé. Tu te dis, OK, si je fais ça, il faut que j'arrive à organiser un peu mon temps, mais tu sais, quand t'es entouré des gens qui font ça parce qu'ils croient à ton projet, t'as envie d'être à la hauteur aussi. À part ça, ça n'a pas changé, tu sais.
Après ça, quel beau modèle à offrir à ses enfants que de faire « Hey, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu sais, puis ça t'empêche pas d'être tout ce que t'as envie d'être. Mère, artiste, artiste qui réussit. » c'est extraordinaire, je trouve, comme message. Là,
je pense que oui. Mais surtout de dire, c'est ça mon métier, d'être une nomade sur la route. C'est quand même spécial. Ça pourrait être pire.
Ouais.
Je pourrais être dans un bureau enfermé de 9 à 5. Je pourrais pas. Je ne suis pas faite pour ça. Je suis trop... J'ai besoin d'espace mental. J'ai besoin de... Ouais.
Et là, cette année, au Gala de la Disque, si je ne me trompe pas, tu as gagné.
Ouais.
Est-ce que ce genre de tape dans le dos-là, de ton milieu, tu as déjà été aussi le prix Polaris? Je sais que c'est des prix. Est-ce que pour toi, ça a une valeur? Est-ce que c'est une tape dans le dos ou au contraire, c'est le fun, mais...
Je pense que ça fait quand même assez longtemps que je regarde mes pères ou l'industrie de musique, parce que depuis Time Out, je suis quand même présente. C'est sûr que c'est pas la grosse présence comme les artistes qui font vraiment ça aussi longtemps que moi, mais quand même, c'est steady. C'est, yeah. Puis je me dis, honnêtement, même ceux qui reçoivent 5 Grammys peuvent être oubliés comme ça. Mm-hmm. Même ceux qui n'ont jamais reçu des prix, ils font des carrières extraordinaires. Alors, je ne sais pas trop comment...
Je pense que c'est exactement la bonne manière de le prendre, en fait.
Ouais.
Une espèce de « Ah, cool si c'est là ».
Ouais.
Puis « Who gives si c'est pas là ».
Honnêtement, je vois ça juste comme un petit plus pour entendre parler de Elisa P. Parce que « Veux, veux pas », c'est ça qu'on essaie de faire, right? Mm-hmm. De dire « OK, les gens entendent parler de mon nom, ils vont dire « Ah, oh, je vais peut-être écouter son album ». C'est ça le,
c'est le but,
c'est que tu veux que ta musique puisse être partout, qu'il y a des gens qui viennent te voir pour que tu puisses offrir ce que tu as à offrir. Alors, pour moi, c'est un peu ça, la disque. Aussi, je pense qu'il y a le moment aussi, c'est le moment de dire de remercier les gens avec qui tu travailles. Alors, pour moi, c'est un peu ça. Mm. Mais c'est sûr que Polaris, pour moi, c'était très important parce que c'était vraiment énervant parce que les artistes qui sont choisis ne sont pas nécessairement des artistes qui vendent beaucoup d'albums ou qui sont très populaires. C'est un mélange, c'est l'album qui est... C'est même pas toi.
Non.
C'est l'album, l'œuvre qui est célébrée. De faire partie de ces gens-là, pour moi, c'était... Wow, c'était énervant. Je pense que tout le monde est très nerveux juste parce que t'es vraiment avec des artisans, là. T'es pas avec les producteurs, puis des...
Ouais.
C'est comme... Tandis que des Junos, la disque, veut pas, il y a beaucoup de ça quand
ouais.
même, tu sais.
Oui, absolument.
Ouais.
Quelque chose que j'ai vu que t'as fait que j'ai trouvé vraiment badass, c'est le Tiny Desk Concert, qui est fucking cool, tu sais, qui est quand même huge, là, tu sais. Il y a des énormes artistes qui ont été là. Est-ce que, tu sais, on dirait que quand j'ai su que tu l'avais fait, j'étais comme content, je pense.
Mais nous aussi.
C'est ça, je me suis dit, est-ce que ce genre de plateau-là ou de show-là qui ont quand même une espèce de... Est-ce que... Je sais que, même, mettons, les salles que j'ai faites où j'avais vu des artistes que j'aimais jouer là,
mm-hmm.
tu sais, quand j'ai joué au Metropolis, mais j'étais comme, oh my God, tu sais, je suis venu voir Carquois, puis Malajube, mm-hmm. puis Bon Hiver ici, mm-hmm. là, tu sais, ça avait comme... Ça teintait mon expérience à moi, tu sais.
Ouais.
Je sais pas si Tiny Desk, c'était ça pour toi un peu?
Ben totalement. Oui, mais c'est surtout de dire, tu sais, mes musiciens, on écoute toutes sortes de musiques, je découvre des trucs, on parle de musique, on parle des Spotify, on parle des podcasts, on parle de tout sur la route, beaucoup, et... Quand on a su qu'on va faire Tiny Desk, juste avoir hâte de leur dire ça, là, pour eux, c'est huge. Même pas pour moi, même pour eux de dire « je vais vivre ça ». Alors, on le savait à peu près 4 mois, 6 mois en avance. Alors, on savait qu'à l'automne, on va se rendre et... c'était extraordinaire. C'était vraiment... C'était à l'automne qu'on est allé. Oh, j'oublie déjà. c'était pas au printemps, c'était en hiver en tout cas. Et quand on est arrivé, on était comme des enfants qui arrivent à Walt Disney ou un immense candy store. Un peu comme. Mais on essaie de le cacher quand même, de Bob Boylan qui est là, qui est le grand maître. C'est lui qui nous a vus à South by Southwest. Avec un chapeau dans un showcase. Normalement, il devait être dans notre showcase le lendemain. Alors, ce jour-là, on arrive, tu sais, c'est quand même un peu crazy. Puis, au Texas, c'est vraiment...
South by Southwest, ça a l'air extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Ça a l'air débile.
C'est dans une petite place. Puis, tu arrives là, puis on fait notre showcase, puis on déchaîne, on est comme... Fuck it, let's do it. T'sais, on est comme... J'étais un peu animal,
raw,
raw, parce que le son était un peu pourri, il y a du monde qui parle au fond, mais quand même, les gens commencent à arriver.
C'était-tu dans un bar?
Ouais, dans un genre de bar extérieur, un peu ouvert à l'extérieur. Ouais. C'est comme long corridor. On était comme, you know what, guys, on y va, tu sais.
Ouais.
Let's just test it, tu sais. On y va dans le cru.
Ouais.
Et on le savait pas, mais Bob Boylan était là. Il a filmé. C'est en allant au retour à l'hôtel avec notre gear que quelqu'un dit, holy shit! Bob Boylan filmed a live stream, genre de note. On est comme, Puis c'était vraiment cool. C'est là qu'on était comme, OK, c'est à celle-là qu'il a décidé d'y aller. Puis depuis ce moment-là, parce qu'il nous a, il a parlé quand même de nous à NPR, en disant, un des artistes qu'on aime, qu'on a hâte d'entendre, cette chanson, Arnaud, puis elle a fait une petite critique, on était comme...
Wow.
Ça n'a pas de sens. Alors, on était comme, j'espère qu'il va nous inviter à Tiny Desk. Puis, quelques semaines après, on l'a su. Alors, c'est ça. C'était une expérience extraordinaire. Presque cérémoniale, presque spirituelle, tellement que tu dis, tu vas aller faire ce show-là qui est mythique, qui est important, qui va sonner. Ça, on le sait, parce que les techniciens, le technicien qui fait sonner ça, c'est quand même un magicien, là.
Ouais.
Et c'était exactement... Peut-être plus que ce que je... Parce que je me sentais bien.
Ouais.
Il nous a fait sentir bien aussi, Bob Boylan, qui était comme... qui nous recevait, puis on était juste comme... Puis on était proches aussi, hein?
Ouais.
On s'est adapté à la room aussi, la façon qu'on joue, comment ça va sonner. Alors, il y avait quelque chose de... explosif, mais retenu pour que ça... que le son respecte l'espace.
Ouais.
C'était cool.
C'est tellement cool que vous avez découvert dans un show où vous avez fait fuck it.
Yeah.
Tu sais?
Yeah.
Fait qu'il a comme vraiment aimé le
oui, totalement.
Exactement ce que vous êtes.
Exactement. Je pense que nos plus beaux showcases, souvent, c'est ça. Quand quelqu'un m'a dit, ou mon chum qui gère, tu sais, comme à Paris, on avait un gros showcase important où toutes les délégations européennes, j'oublie le nom de, pas mondial, mais Womex, je pensais, c'est ça, Womex. C'est-tu Womex? Non, ça, c'est un autre. Anyway, je suis en train de mélanger. C'est un gros showcase qui se passe à Paris. Et on est dans un petit bar, puis on se dit, ben il n'y a personne qui arrive. Puis il y a beaucoup de délégations canadiennes aussi qui invitent du monde. Alors, on est comme, on nous avait dit qu'il va quand même avoir du monde. Alors, on commence dans 5 minutes, puis soudainement, les gens commencent à arriver. Tu sais, le doute total, genre, il n'y a personne. Finalement, on est tellement... Le son est pourri. Alors, je dis aux gars, « Guys, focus pas sur le son, s'il te plaît. Focus sur nous.
Yeah.
J'ai besoin... Si vous commencez à capoter sur le son, je vais me perdre. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez présents. » Puis quelqu'un dit, « Vas-y, déchaîne. On s'en fout. Just allez déchaîner. Montre-leur ces Parisiens-là qui vont être un peu comme... »
Ouais, un petit peu stock-up, là.
Et là, c'était extraordinaire.
Ah ouais, hein?
Ah ouais, ouais. Ça a changé tout, finalement, parce qu'on a promené partout en Europe, en France, avec ce showcase-là que tout le monde a entendu parler ou que du monde qui ont vu. Alors, c'est ça. Des fois, c'est même chose en Espagne, à Womex.
Wow!
J'étais en crise parce que mon bébé était là, puis, tu sais, il avait 5 mois, puis j'arrivais pas à boutonner comme il faut un truc que je me suis... Tu sais, j'ai des seins comme ça, de lait, j'ai comme... Les hormones font que je suis fatiguée, puis je pète une crise. Les gens sont comme, OK, vraiment nerveuse, il faut qu'on le laisse tranquille.
Mm-hmm.
Et là, je suis montée sur scène en...
Oui.
Cette énergie-là s'est transformée en quelque chose. C'est tellement le fun, ces moments-là.
Oui, ça revient à
ça n'arrive pas tout le temps.
Non.
Mais ça arrive au moment que tu te sens une pression, tu dis, OK, vas-tu craquer? Es-tu capable de... À ce moment-là où tu dis, pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je vis ces stress-là?
Ouais.
C'est à ce moment-là, tu es comme, you feel alive, tu sais.
Mais c'est extraordinaire, ça revient à ce que tu disais tantôt, la scène. Il y a quelque chose de tellement mythique et spécial avec la scène.
Oui.
Où ce que, quand tu trouves ces moments magiques-là, ça, moi, je suis un passionné de la scène. J'ai fait des shows, là, comme un déchaîné. Le plus que je pouvais, tout le temps. Pas nécessairement déchaîné sur scène, Mais mon Dieu que j'en veux, tu sais. Et pendant la tournée, tu sais ce que c'est, justement, là, tu sais, j'ai jamais accouché, donc évidemment, c'est vraiment plus minime que ce que tu as pu vivre comme moment particulier, mais des moments particuliers où tu es comme, ah mon Dieu, ça me tente pas, ou tu es à l'envers, ou tu sais pas trop, tu arrives en retard, il t'est arrivé quelque chose, nanana. Et premier rire.
Ouais.
Au premier rire, toute cette agitation-là devient juste une espèce d'énergie que tu renvoies à la crowd parce que la crowd te dit « Hey, on est là, c'est good, tu sais. »
Ben oui. Ouais.
Tellement puissant.
Ouais.
C'est tellement puissant.
C'est vrai que c'est puissant. Puis c'est là que tu dis, là, comme n'importe quoi, tu sais, on est fait fort, hein, on est fait pour... Je pense qu'on veut trop contrôler, on compartimente tout, mais quand tu vis des choses comme ça... Tout ce stress-là, le bordel que je vivais dans la loge, tout se ramasse au moment que tu es sur scène. C'est comme tu... Everything makes sense.
Ouais.
Tout, tu peux plus contrôler. Parce que si tu commences à contrôler, tu vas faire des erreurs partout quand tu réfléchis.
Ouais.
C'est au moment que tu lâches prise que tout est... C'est comme le corps enregistre des choses. Il faut juste avoir confiance qu'il va... C'est ça.
Absolument.
Ouais.
Je parlais ici même avec Alexandra Strelitzky, avec qui tu as partagé la scène l'année dernière à la disque, c'était extraordinaire, qui elle-même parlait qu'en show, elle tombe en espèce de transe parfois, tu sais. Puis je trouve que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, la magie de la musique, tu sais.
Mm-hmm.
J'imagine que quand tu dis que tu es déchaîné ou ce show-là, tu sais, en Espagne, est-ce que c'est ça qui arrive un peu? C'est une espèce d'expérience où... ça revient au lâcher prise que tu parlais tantôt de faire ces moments-là où tu te permets juste d'être « Hey, that's who I am, voici comment je me sens » puis j'utilise toute cette énergie-là dans la chanson.
Ouais.
Puis est-ce que c'est un peu ça, sans dire une transe, mais une espèce de des shows où tu débarques puis tu te souviens quasiment plus ce qui s'est passé.
Ah, oh, tellement! Des fois, ça arrive... Mais je pense, comme tu dis, c'est cette lâcher prise-là, peut-être ce retenu que j'avais peut-être pour essayer de... J'étais pas aussi libre, finalement.
Mm.
C'est à ce moment-là, avec ces chansons-là m'ont libérée. Je me suis libérée et je me sens vraiment que je suis beaucoup plus... j'ai une force en moi que j'ignorais, que j'essaie de peut-être mettre à la limite sur le côté. Et je pense que c'est juste sur scène, ça ressort. Puis, tu sais, même des amis à moi ou des gens qui ne m'ont pas vu depuis longtemps ou même des musiciens avec qui j'ai travaillé à mes débuts, ils viennent voir le show et disent « Mais, wow, c'est quoi cette affaire, tu sais? T'es rock! » J'ai dit « Ben, j'ai toujours été rock, tu sais. J'ai toujours aimé des choses d'un peu... mais je pense que je l'ai mis plus à côté. Puis là, c'est juste... Ça rentre... Ça flirte avec la vulnérabilité aussi.
Ouais.
Alors ça fait des choses qui créent un peu de magie, de moments où... Tu sais...
Te permettre d'être exactement ce que t'es.
Ouais.
Et curieusement, c'est là que les trucs fleurissent. Des
totalement.
Shows comme à Paris où tu fais « Hey, fuck it, guys.
Mm-hmm.
Aidez-moi à être moi-même. »
Ouais.
Inconsciemment ou consciemment, et finalement, c'est ce qui fait que les gens accrochent.
Ouais, exactement.
C'est très fort, la vulnérabilité pour ça. Là.
Je pense que oui. Ouais, je pense que... J'ai souvent trop confondu avec la fragilité ou la la fragilité ou aussi le sentiment de perdre le contrôle ou d'être un peu naïve.
Mm.
J'avais toujours peur qu'on t'sais, maintenant je suis comme non,
c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Mais oui, absolument.
C'est une force.
Ouais.
Ouais.
Et en plus, je trouve que juste de peur. Ton histoire t'incarne une force aussi.
Ouais.
Tu sais, une jeune femme du Nunavik qui est rendue à tourer à Paris, partout dans le monde. C'est fort, là. L'image est forte.
J'imagine.
Le chemin parcouru est fort aussi, tu sais. Ça revient un peu à être douce avec toi, de faire « Hey, attends, là, je peux comme me cut some slack un peu, puis de... » Taper dans le dos, là, tout est, c'était pas un tapis rouge qui t'attendait, puis au contraire, on dirait que...
Non. Mais j'ai toujours pensé que j'avais le tapis rouge, parce que de mon expérience, comparé de mon cousin qui s'est suicidé ou ma cousine qui en arrache, tu sais, de pas pouvoir dire je veux penser à moi. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. J'ai ce luxe-là de, d'être capable de dire j'ai besoin de penser à moi, sinon je craque. Mm-hmm. Tu sais, très vite, je craque si moindre sentiment qu'on essaie d'enlever cette paix-là que j'essaie de bâtir, tu sais. Alors, j'ai toujours pensé que, non, c'est bon, j'ai tout le monde me donne de l'amour, dit que je suis belle, puis je suis ci, je suis ça, c'est comme, tu sais, maintenant, je suis capable d'écouter ce que les gens vont dire en disant, tu m'as inspiré, puis d'être capable de dire, OK, all right, OK, cool. Mais avant, j'étais comme, je peux pas entendre quelqu'un dire, t'es vraiment belle, t'es vraiment bonne. Je l'entendais pas. C'est comme, ça rentrait pas. Parce que I don't deserve it. Mm. C'est ça que je me disais il y a pas si longtemps. Maintenant, je suis capable de dire, OK, cool. Au moins comprendre que ça fait réellement du bien à quelqu'un. Mm-hmm. De dire, OK, cool, j'ai... Surtout les femmes, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, qui disent... C'est comme ils ressentent leur force en eux qui est là, qui retient.
Ouais.
Après, ils disent, j'ai envie d'éclater. C'est ça aussi, tu sais, de moi, combien de fois j'ai vu des shows qui m'ont donné envie de changer ma façon de voir les choses, de profiter plus de la vie, d'être un peu plus folle, un peu plus libre. Ouais, je pense que c'est le seul fun de pouvoir
offrir ça.
Offrir ça, ouais. Ouais.
Absolument.
C'est un miroir, là.
Ouais.
Ouais.
Il y a quelque chose, j'imagine, aussi qui vient du fait que je vais utiliser le mot survivre à la dépression,
mm-hmm.
De réaliser justement que tu es forte, que tu mérites tout ce qui t'arrive. J'imagine que de là aussi vient cette espèce de douceur avec toi-même, d'empathie face à toi, d'empathie face à la jeune fille que ouais. t'étais, au bébé que t'étais,
mm-hmm.
qui te permet aussi une espèce de prendre ce qui te revient et d'offrir ouais. par la suite. T'sais.
Totalement. Je pense que je suis rendue là. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'autres choses que j'ai besoin d'apprendre. C'est nouveau, hein, ce regard-là mm-hmm. envers moi. Alors, il y a encore beaucoup de choses probablement à placer.
Mais
qui
ne
va jamais se faire, anyway. Je pense que
c'est ça la vie aussi, tu sais, je pense.
Surtout quand tu es créateur, tu es toujours en train de trouver des trucs qui t'amènent un petit chemin, puis après, tu prends un autre chemin. C'est le fun pour ça. Je me dis, oh my God, j'ai tout fait maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour le prochain album? Mais non, c'est comme les leftovers de cet album-là que j'ai découvert juste à la fin. D'autres trucs qui sont ouverts, je suis comme, oh, c'est... Il y a quelque chose que j'ai besoin d'explorer encore.
Mais oui.
Ce parcours-là.
Tu t'as mentionné le suicide de ton cousin. Je sais aussi que lorsque je t'écoutais, il y a du monde à Metz. C'est une réalité, malheureusement, mm-hmm. dans ta communauté. Comment on peut aider ou comme c'est quoi ton regard face à cette réalité, puis ça me fend le cœur là, mm-hmm. tu sais, de
c'est une réalité.
Ouais, c'est ça, si j'ai pas le choix de dire ça,
ouais.
mais ça me brise le cœur de dire que c'est une réalité.
Mm-hmm. Mais la réalité, c'est qu'il y a pas si longtemps on nous a dit que notre façon d'être, les semi-nomades qu'on était, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas de village. Il y avait des campements, mm-hmm. les gens qui vivaient, parce que c'est là, depuis longtemps, qu'ils ont compris que les animaux y vont à l'automne, à l'hiver. D'autres places, c'est plus c'est pour l'été. Ça a tout à voir avec la chasse, avec mm-hmm. le contact avec les animaux, la nature. Alors, le territoire, on voit ça d'une manière comme c'est nous. Nous, le territoire est nous.
Ouais.
On est dans le territoire. Et soudainement, quand les gouvernements sont arrivés, ils ont dit, ils commençaient à aller chercher les aînés, surtout parce que c'est les leaders. Il dit, hey, il faut que tu installes. Il y a une Hudson Bay Company, il est rendu une école, il y a même quelqu'un qui va pouvoir, une infirmière, on installe tout ça là. Il faut que, si vous voulez avoir des allowances pour les enfants du gouvernement, tu vas voir, ça va être une vie beaucoup plus simple. C'est comme ça qu'ils ont forcé ces gens-là parce qu'ils voulaient qu'on devienne, comment dire, les citoyens canadiens. Et ils l'ont installé, les enfants. Pour commencer, tu installes une école. C'est là que... Alors, depuis ce temps-là, on est dans des villages.
Ouais.
Tu sais, mon village a même pas 45 ans, là, pour vrai.
Tout jeune.
Municipalité, là. Alors, c'est complètement flyé. C'est tellement récent.
Mm-hmm.
Et depuis ce temps-là, il y avait comme une sorte de désarroi qu'on ne le sentait pas quand on a fait ce move-là. Finalement, la façon de vivre dans le territoire est complètement bousculée, tu sais.
Votre manière d'être.
Oui, des coutumes millénaires, tu sais. C'est quand même flyé de dire que dans 50 ans, ces années-là ont vu des changements incroyables. C'est pas normal qu'on s'en sorte comme ça.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est pas normal d'en sortir de pas affecter notre écosystème, la façon sociale de fonctionner. Tout était lié à la nature, à les animaux, à la paix, tu sais. Alors, oui, je pense que pour changer les choses, je pense qu'il faut vraiment qu'on montre aux jeunes qui vaut plus que ce qu'on leur a dit, qui est leur vie. Tu sais, comme dans notre tête, la façon que le gouvernement nous traite, je dis pas qu'il nous bat puis qu'il nous force des choses, mais non. C'est juste la façon qu'on est oublié dans des régions comme ça, dans des réserves ou dans les communautés nordiques. On nous fait sentir que on n'est pas si important. Alors, comment tu peux essayer de vivre dans la modernité quand on nous dit c'est ça que tu dois vivre quand on n'a pas la moitié de ce que n'importe quel enfant, je sais pas, à Longueuil, à Montréal, peut avoir, ou les familles, on n'a pas de ressources. Alors, ça a été très mal pensé, je trouve.
C'est clair.
Je pense à ce moment, on est en train de réaliser, OK, on nous doit ça. Nous aussi, on peut avoir des choses comme n'importe quel citoyen canadien.
Puis c'est tellement... c'est que ça mène à des histoires tellement tragiques.
Mm-hmm.
Tu sais, le mot que tu as adressé à François Legault quand est arrivée la tragédie de Joyce Echaquan m'a chaviré. Mm-hmm. C'est venu me toucher profondément. Puis de faire... Et moi, cet automne, je tournais à côté de Joliette,
mm-hmm.
où c'est arrivé, et de faire... Mais qu'est-ce qui se passe?
Mm-hmm.
Il reste tellement de chemin à faire que c'est comment vous trouvez le courage et la force de ne pas être découragé?
Oh non, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Veux pas de savoir que les gens, nos amis, les gens qu'on côtoie sont en train de réaliser qu'il y a un secret qu'on leur a caché, sont en train de découvrir qu'on...
La vérité.
La vérité. Pourquoi mes parents m'en ont pas parlé? De voir, juste nous là, juste de voir ça, d'être witness et témoin de ça, on est comme... Oh, ouais. On a tellement confiance juste à cette réflexion qui change. Il faut commencer par là. Unfortunately, il n'y a pas de miracle. Ça ne va pas se faire comme ça non plus.
C'est
parce que l'être humain, il est un peu lent, il est un peu paresseux. Ça prend quelque chose comme un drame pour réveiller les gens au Québec. Même là, tu sais, il faut que l'industrie la télé, les gens de l'industrie de culture, dans la culture ou dans...
Les médias.
Dans les médias. Même là, il faut vraiment le rappeler souvent parce que ça prend du temps à habituer les gens, les citoyens, à une façon de voir les choses. Alors, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais au moins, on sait... Moi, je, à l'école de mon garçon, il y a des enfants qui disent à mon fils, « Ah, c'est ta maman, on l'a vue à la télé! » Puis je pense que leurs parents, ils parlent tellement plus sur les choses qui se passent dans le monde autochtone quand ils l'ont vu, sa preuve, quand elle a vu que, OK, il y a un lien avec Joyce, il y a un lien avec les Autochtones, ils se sont tellement plus concernés que c'est rendu que les enfants ont dit, « Ah, t'as chanté en Inuktitut! J'ai chanté en Inuktitut! » Ça, là, ça n'existait pas juste il y a 5 ans.
Ouais.
Ça, on était toutes mis les Premières Nations. Moi, je ne suis pas Première Nation, je suis Inuk, des Inuits, et après, il y a les Premières Nations, mais on est tous des Autochtones. Alors, il y a vraiment des petits détails où on sent les parents, ils font l'effort d'essayer de préciser qu'il y a plusieurs peuples autochtones. Déjà, c'est comme « wow ». Alors, je vois les choses à ce moment. C'est pour ça que je peux pas dire « ah, oh, c'est... Oh. » Comment on fait? C'était tellement dur, anyway, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore dans beaucoup de places, dans des réserves ou dans des milieux urbains, ce que les Autochtones vivent encore. Mais c'est tellement, comment dire ça? On a déjà vécu le calvaire, tu sais, les pensionnats réfléchis à ce que ces gens-là ont vécu, ces enfants-là perdus.
Qui ont été pris de leur famille et qui se sont fait éduquer une autre langue, qui a fait en sorte que le lien
jour
familial...
Au lendemain, ils ont découvert c'est quoi la peur. C'est quoi de faire traiter de sauvage. Parce que quand Florent Volant était dans son campement vers le Labrador, les Innus, un peuple extraordinaire, nos voisins du Sud, lui, il était bien avec ses frères et sœurs au campement. Il n'avait pas froid, il n'avait pas faim, il chassait... symbiosité avec le territoire. Jour au lendemain, ses parents, son père, il fait une demi-heure de marche vers le lac avec le traîneau, avec tous ses enfants. Puis Florent, il dit, je me souviens de ce moment-là, j'avais 5 ans. Et là, mon père est tranquille parce qu'il sait, il s'en va donner ses enfants à les gens qui travaillent pour Dieu.
Parce qu'il n'y avait pas le choix.
Surtout, ils ne vont pas le faire mal. Et apparemment, ils vont avoir des jobs un jour, puis là, là, là.
Fait qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient aider leurs enfants à se libérer, en quelque sorte, ou du moins leur offrir une vie meilleure.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas le choix au départ, puis après, ils se sont dit, OK, c'est ça qu'on nous a vendu, OK, c'est bon. Ils rentrent dans le train. La première chose qu'ils entendent, c'est les sauvages par là. Et ça, c'est 7 ans de sa vie où il rentre juste l'été, mais il ne voit plus ses parents. Tranquillement, comme il dit, c'est là que mes parents commencent à boire. Comment tu peux être bien quand tu n'as plus d'enfants? Moi, je ne pourrais pas survivre à ça. Personne.
Mais non.
Alors, je pense que c'est... ces choses-là que les gens essaient d'attraper, à revivre. Tu sais, ce que Florent, il fait pour moi, là, Florent, c'est un être humain plus fort que nature. Parce que, comme il dit, il a créé son univers, son petit monde. C'est ça qui arrive quand on a besoin de survivre.
Une résilience tellement puissante que ça te sauve la vie et ça sauve probablement la vie d'autres.
Ben oui, avec lui, son œuvre. Beaucoup qui sont morts, mais lui, il a dit, OK, j'ai cette chance-là.
Est-ce que tu l'as rencontré?
Oui, c'est un ami. J'ai fait une entrevue avec lui récemment. Je le côtoie, mais plus ça va, plus on a une amitié très, très forte. C'est quelqu'un qui me fait rire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est super drôle. Parce que nos deux mondes autochtones se... C'est comme on se trouve drôle parce qu'on est drôle, premièrement, mais aussi parce que la vie est tu sais, quand tu rencontres que tu essaies de survivre dans ce monde-là qui n'est pas vraiment le tien, mais c'est comme on se reconnaît, on est, alors on se, beaucoup d'autodérision qui nous font rire, les choses qu'on vit, puis...
J'admire profondément la douceur que vous avez. Parce que c'est tellement... L'histoire est tellement tragique. Et je vous trouve... J'admire la douceur que vous présentez, je trouve. Mm. Parce que c'est tellement pas ce qu'on vous a offert. Et je trouve ça admirable.
Ben merci, mais je... Je suis pas toujours douce.
En vrai. Plus, t'es humble.
Non, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de très impatient par moment. Puis, mais je pense que j'ai réellement ça. J'aspire d'être là-dedans parce que c'est tellement important. Tu sais, ça se peut que la vie vienne te chercher parce que tu souffres trop, puis tu sais, je pense à vraiment des choses comme ça, mais surtout, il faut le dire, moi j'ai été élevée avec la douceur, tu sais, mes souvenirs d'enfance, être dans un campement avec mes parents qui sont d'une autre époque, qui ont besoin de rien d'autre que la nature et une tente, puis du thé, puis de la banane, puis du beluga l'été, puis du caribou, puis peut-être une petite sucette de temps en temps pour moi, pour dire... Mais ils n'avaient pas de caméra, ils n'ont jamais capté des choses pour dire, oh, c'est un souvenir, tu sais. Alors, on était vraiment au moment présent dans la douceur de la vie.
Wow.
Les gens qui parlaient pas beaucoup non plus, pas besoin, tu sais. Alors, je me contente très facilement de ça, je suis bien là-dedans. Mais... Par contre, l'ennui me fait très peur, tu sais.
Avec
peur
raison.
Mais ça, pour moi, c'est pas l'ennui. Ça, c'est juste avoir le luxe de réfléchir sur les choses, de...
Un vrai bien-être, un calme.
Ouais. Mais ça veut pas dire que je réfléchis pas, tu sais.
Non.
Ouais.
Wow.
Donc, pour moi, je m'accroche beaucoup à ça.
Ouais.
Je pense que c'est là vient la douceur. Puis la douceur aussi, c'est une force. J'ai vite compris que j'étais quelqu'un qui peut faire des liens entre les gens qui sont différents. J'ai toujours eu des amis flyés, un peu plus straight.
T'es un pont.
Je suis bien là-dedans. Je dis, ouais, mais t'es un peu... Mais c'est correct aussi. Mais, ouais, tu sais, j'aime de voir les gens...
Très rassembleuse.
Ouais, très maman, très rassembleuse. Ouais, je pense que c'est une sorte de... C'est ma façon de l'aider aussi un peu.
Ouais.
C'est ma façon d'être... De l'aider les choses. Puis j'aspire d'être ça. Je veux réaliser... J'ai réalisé mes albums.
Ouais.
Je veux faire beaucoup de choses. Une boîte de prod. Je veux rentrer tranquillement là-dedans, dans la chose où il faut être capable de l'idée quelque chose.
Ouais.
J'adore ça.
T'aimes être libre, en fait, parce que plus tu peux prendre décision curieusement,
ouais,
plus t'es libre, c'est ça qui est particulier.
Oui. Je... Pourtant, j'ai une lâcher prise aussi sur... Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Je dis, OK, fais la décision pour moi, pour ces choses-là.
Mm-hmm.
Il y a des choses que je suis complètement... Whatever. Mais il y a des choses que je... qui sont réellement importants, les décisions importantes. Ouais.
Aujourd'hui, ton rapport à la nature, c'est quoi?
Je m'ennuie profondément de la nature où j'ai grandi, où il n'y a pas d'arbres, où il y a de l'espace. Il y a des montagnes et des vallées et des nuances de couleurs... Le vent, le froid front, là. Parce que le froid de Montréal et le froid de la forêt, je sais pas, en Mauricie, je dis n'importe quoi, avec les arbres, c'est pas du tout la même chose chez nous. Le vent est frais, c'est sec, puis ça frappe ça tout de suite. C'est comme un sentiment d'être purifié à chaque fois. Tu vas... J'aime pas l'hiver, dans le sens où... Je prendrais deux mois moins de l'hiver parce que j'apprends à aimer le printemps et l'été ici, même si c'est vraiment, vraiment trop chaud.
T'sais. C'est ça.
J'apprends à m'adapter. Alors, je me dis, ah, c'est vrai que c'est... Ouais, j'aime la nature. J'aime la nature. Je m'ennuie profondément. Je suis prête à... Tu sais, je suis rendue une banlieusarde maintenant à Longueuil depuis...
tu le dis avec un petit sourire en coin.
Ouais, c'est vrai. C'est pas la ville, mais en même temps, je suis vraiment rendue où j'ai besoin de m'installer, de faire un espace... Ouais, dans pas long, je pense qu'on va... Je sais pas. En tout cas... J'ai envie d'un espace où je peux créer, vraiment être proche de la nature. Je m'ennuie beaucoup.
Il y a quelque chose d'inconsciemment très fort au fait de voir loin.
Ouais.
Tu sais, mes parents sont en campagne. J'ai la chance d'avoir acheté une maison pas loin de chez eux.
Mm.
Et elle est vraiment pas prête en ce moment, la maison. Là, c'est pas du tout un nid. Là, c'est complètement un chantier.
Mm.
Mais je me stationne là, je sors et je regarde loin. Puis on dirait que je respire mieux, tu sais. Naturellement, il y a quelque chose de comme...
Oh my God, ouais.
Quand c'est quelque chose que tu as connu, tu sais, moi, j'ai passé mon adolescence en campagne, on dirait que ça fait un effet sur tout le corps.
Tellement.
Ce retour-là.
Mais surtout, je trouve que les gens ne connaissent pas Québec, les régions. Je me dis, mais comment... T'as jamais été en Gaspésie? T'es pas allé Métis-sur-Mer? T'es pas allé,
la Côte-Nord.
L'Estrie, vers Vermont, vers la Maine. Moi, je dis pas aller jusqu'à là.
Ouais, ouais.
La Côte-Nord. Mm-hmm. Oh, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh my God!
Extraordinaire.
Ça n'a pas besoin d'être des gros, tu sais, il y a... Surtout, de toute façon, c'est des petits motels. Ça n'a pas besoin d'coûter une fortune. C'est des petits motels un peu partout. Il y en a mieux que d'autres. Mais je me dis... Ça coûte presque rien. Puis surtout, le territoire est tellement vaste. Tu découvres à chaque région est différent.
Mm-hmm.
Je me dis, wow, il faut voyager. Parce que pour moi, comme cet été, quand je suis allée en Gaspésie, ça m'a tellement fait du bien là, d'avoir prendre la route déjà, prendre la route.
Tu sais,
s'il y a quelque chose de vraiment qui fait du bien... C'est presque une thérapie, tu sais.
Ouais.
Ouais.
Puis curieusement, plus tu vas loin, du moins moi avec la tournée, ça a été ça, plus le show était loin, plus l'accueil était généreux.
Ah ouais.
Pas juste dans la salle, parce que je pense que le public québécois est très généreux de base, fait que t'as vraiment pas besoin d'aller... Tu sais, j'ai eu des shows extraordinaires partout.
Ouais.
L'accueil autour... Tu sais, je suis allé jouer... Tu arrives à Chibougamau, par exemple, qui je pense, dans les plus loin que j'ai fait, ça, puis la Côte-Nord. Et les gens te remercient d'être venus, tout simplement.
Ouais.
Et de faire, oui, mais vous avez payé vos billets, tu sais, dans le sens où, c'est pas du bénévolat, là. Tu sais, mais pour eux, c'est genre, merci d'être venu jusqu'ici, tu sais.
Ouais.
C'est pour, tu sens que c'est genuine, c'est vraiment apprécié.
Ouais. Mais c'est vrai, les gens sont généreux au Québec, c'est incomparable, tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose de très libre aussi, très proche des artistes, tu sais,
Est-ce que si on continue la route jusqu'au Nunavut, l'accueil est comme ça?
Jusqu'à Nunavut?
Ouais,
c'est un autre trip.
Ouais.
C'est une autre bulle. C'est une autre façon de voir. Ils n'ont pas cette... lâcher prise, peut-être, sont beaucoup plus comme...
Contemplatif.
Pas contemplatif, c'est juste qu'il se passe des choses dans leur tête. Puis, tu sais, surtout quand tu vois les jeunes, moi, ça me fait capoter à chaque fois, c'est les jeunes qui te regardent, genre... Parce que moi, je fais le même show. Oui, un peu plus adapté, les choses que je dis dans ma langue, c'est différent, mais je leur donne un show.
Mmh.
Ils méritent un show. Je ne vais pas aller être en feu de camp puis commencer comme... Je crée le même... Tu sais, le même... un petit côté mystère pour ne pas dévoiler tout de suite pour, tu sais, le... Puis les jeunes sont comme... Wow! C'est une Inuk qui est sur scène dans leur tête. C'est comme... C'est la nôtre. Ça, c'est tellement le fun.
Tu leur rends ce que Susan t'a fait.
Exactement, ouais. C'est vraiment des plus beaux moments comme ça. Aussi, quand tu vas dans des réserves, évidemment, tu sais, c'est la même affaire. Quand tu vas à Maliutenam, les gens semblent vraiment comme ils réagissent moins, mais tu sens qu'ils...
Ça rentre
ça
pas...
les réfléchir, c'est ça, ça les fait réfléchir.
Ça va les chercher.
Ouais.
Extraordinaire.
Mm.
Et là, tu dis que c'est relativement récent. Je vais appeler ça entre guillemets ta liberté, ou du moins l'espèce de... ouais, la journée où tu as un peu embrace Elissa P dans tout ce qu'elle est. What's next? Qu'est-ce que justement, quand tu dis que ton enfance était beaucoup incarnée dans le moment présent, mm-hmm. est-ce que tu as ramené ça aussi de ton enfance aujourd'hui un petit peu plus?
Non. C'est très différent ce que j'ai vécu avec mes parents et ce que mes enfants vivent avec moi ou avec nous, finalement. Mm-hmm. Mais je pense que c'est une quête. Je pense qu'ils vont voir... c'est comme si les enfants, ils vont dire, « Ah, elle était comme ça, mes parents étaient comme ça, puis tranquillement, ils sont devenus ça. » Je pense qu'on est dans le truc où on réalise des choses... On se dit, oh, that, je peux gérer un peu mieux. Parce qu'on était beaucoup dans le travail, tu sais, dans le travail, travail, travail. Puis on sait très bien qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre aussi qui se fasse. Alors, je pense qu'on a investi beaucoup. Mon chum qui travaille fort, moi qui est beaucoup sur la route. On a beaucoup investi pour cet album-là. Et... ce qu'on sait, ce qu'on ressent, c'est que les enfants n'ont pas été affectés ou ils ont manqué de papa, maman, parce que c'était tellement un truc qui nous donne tellement de joie et de bonheur que même les enfants, ils se sont concernés dans cette opération.
Wow.
Il y a quelque chose, c'est juste comme ça. On n'a pas senti, ouais, t'es toujours partie. C'est comme, non, on a trouvé une façon. Parce que mon chum, quand j'étais partie, jamais qu'il était comme, ouais, c'est vraiment dur, là, j'ai hâte que tu reviens. Puis, oui, il y a ça, mais il y a un presque comme si je m'en allais faire quelque chose de vraiment important, une cause qui est bon pour la famille,
ouais.
Presque. Il était d'une générosité et qui croit tellement ce projet-là qu'il avait juste hâte que les Français ou les gens partout le voient parce qu'il dit, il croyait, tu sais. Alors, il y a quelque chose qui change tout dans ça.
Est-ce que tu pensais tourer partout dans le monde? C'est fou, là.
Mais dans le monde, oui, j'en ai fait, mais je pense que... Non, je pensais pas que ça allait réagir comme ça.
C'est incroyable.
Surtout les Français, tu sais, parce que mon label en français, ils croyaient vraiment à ce truc-là. Puis j'étais comme, OK, comment j'avais une notion qu'ils vont vouloir intellectualiser ce truc-là qui n'est pas du tout un truc d'intellectuel, tu sais. Finalement, ils l'ont embarqué avec... Ils ont reçu ça, genre, OK, quelque chose de brut pour eux, c'était... Alors, c'est vraiment... La réaction est tellement forte, là. Plus que je pensais, le public réagit vraiment très fort, puis ils sont comme full dedans, tu sais, super émotifs. Il y a du monde qui pleure, puis il y a, tu sais... alors, c'est vraiment le fun de leur mettre ça dans leur face. C'est comme... Bah! They can take it, you know? Ils le prennent, puis ils aiment ça. Alors...
Puis... Comme tu parlais de cette tournée-ci, ou du moins de cet album-là, du projet de cet album-là, comme étant quelque chose qui vous amenait beaucoup de positif dans ta famille, comme une sorte quasiment de pèlerinage.
Mmh.
Est-ce que c'était prévu dès le départ? Est-ce que ça a teinté aussi le spectacle quand tu l'as monté, le show? Tu l'as monté comment, différemment?
C'était toute une histoire parce que quand l'album, premièrement, on l'a tapé à l'intérieur d'une semaine dans un chalet devant le lac.
Incroyable.
Très brut, très misé sur qu'est-ce que les musiciens peuvent, et nous, live, peut amener comme émotion. Un peu comme dans le temps, là, tu sais, je voulais surtout pas aller dans un... beau studio avec ma voix tout seul avec dans un booth, and I'm like, j'ai envie de vivre une expérience qui va me déstabiliser Puis j'ai été chercher Joe Grass, qui est comme...
légendaire.
Je ne peux pas avoir plus brut que lui, tu sais.
Que tu connaissais déjà, parce que ça fait longtemps.
Que j'avais rencontré dans le temps, puis que je sais qu'il travaille avec des gens formidables. Puis on devait juste faire une démo, une expérience musicale. J'ai dit, je veux deux guitares. J'ai comme envie d'avoir deux guitares. Je ne veux pas bass, drum. Je veux juste deux guitares pour voir comment vous pouvez remplir et danser ensemble dans ce petit monde. On est allé dans un petit chalet en mois de janvier. Ce qui est sorti de là, d'un week-end, était tellement... il y avait quelque chose de tellement fort que j'ai dit, OK. Dans le temps, je voulais travailler avec un grand réalisateur islandais, puis finalement, qui nous a référé son engineer, puis finalement... avec Joe, on s'est dit, OK, viens. Le gars arrive d'Islande, il débarque à Montréal, il fait une nuit, on s'en va pas dans le coin de Disraeli, là.
Comme OK, oui, oh my God, quand même, là.
Ouais,
près du Nouveau-Brunswick.
Non.
Est-ce que je me suis trompé?
C'est plus là, dans le canton de l'Est.
J'avais Dégely dans la tête, je me suis trompé.
C'est Disraeli, devant un lac Elmer, que ça s'appelle.
Yes.
Puis, tu sais, une heure de Sherbrooke. Anyway. On s'installe là dans une petite place qui est à peine un toit en hauteur pour le drum. Puis c'était vraiment le bordel total. Je suis conduit un gros van rempli de stock tout seul, 2 heures. Puis je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va-t-il? Finalement, on débarque. Je fais à manger. J'ai tout fait. Ça a été fait de manière...
Comment vous avez trouvé cet endroit? C'est Joe qui a trouvé ça?
Moi, je l'ai trouvé dans Kididi. Parce que je produisais. J'avais pas les moyens non plus d'avoir un gros truc. J'étais comme, OK.
Fait que t'as loué un shack et t'as amené le studio là.
C'était un chalet.
C'était pas un studio.
Non. Okay, je ne voulais pas de studio.
Incroyable.
Je voulais surtout assurer qu'il n'y a personne qui a enregistré là. C'est comme je voulais quelque chose de...
oui.
Un peu déstabilisant, un peu, qui n'est pas idéalement ton truc idéal,
ouais.
Grand espace, c'est comme, il n'y avait rien.
Quelque chose de raw, encore
ouais,
une fois.
Oui, c'est là que naît ce sentiment-là de « these songs like it, like that », you know? C'est les chansons qu'il veut, puis on a fait une semaine avec les musiciens, une autre semaine de quelques petits ajouts. Et
puis là, mettons,
ça a resté là longtemps avant qu'on fait le mix.
Pourquoi ça a été long?
Parce que on avait le label en France qui commençait à vraiment aimer le projet, puis ils ont trouvé un booker vraiment cool qui hésitait au début. Finalement, ils l'ont réécouté et dit OK. Alors, il a fallu qu'on prenne le temps. Le temps. Best friend. C'est la meilleure chose qui est arrivée. Parce que finalement, ça a été resté un peu, tu sais, in the oven un peu ouais. plus longtemps. Et au moment qu'on devait le sortir, je tombe enceinte de mon 3e enfant. True story.
Incroyable.
Encore nous donner un peu plus de temps. Puis c'est rendu l'automne, l'année après. Et l'album est sorti. Mais on a pu trouver l'équipe.
Ouais.
À cause de ces imprévus, des gens qui comprennent le projet, moi de comprendre le projet même que je dois livrer parce que c'est le fun de faire l'album, mais après, il faut que tu essaies d'expliquer c'est quoi ça, tu sais, ce monde-là. Alors, c'était vraiment extraordinaire. Alors, le show a été monté, toute l'équipe a été montée avec moi qui est... OK, comme ça.
Qui berce le bébé.
Qui a l'être dans backstage. Comme, all right. C'était vraiment... Mais j'aurais pas fait ça autrement, je pense.
Mais non, en même temps, ça revient à l'idée de la vulnérabilité, ça revient à l'idée de la vérité, ça revient à l'idée aussi, curieusement, du moment présent. En ce moment, c'est ça.
Ouais.
That's what it is, tu sais, puis... je vais me montrer exactement comme je le suis.
Ben oui, puis surtout, tu viens d'accoucher, t'as pas le corps, ton corps est comme en transformation, puis tu veux bien paraître, puis en même temps, les gens savent que t'as un petit bébé, alors il y a quelque chose de très... OK, I'm not gonna focus on the perfection.
T'sais, mais le pire, c'est que... tu vois, ma petite sœur vient juste d'accoucher de son premier enfant, puis ma grande sœur en a 3. Une admiration là, sans limite
C'est fou.
Pour
hein?
mes sœurs et ma mère, évidemment, par la bande. Parce que pour moi, c'est man de la femme qui vient d'accoucher ou la femme enceinte. J'inclus toute cette espèce de temps-là. Ça m'en donne des frissons. J'ai de la difficulté même à mettre le doigt là-dessus, mais c'est une admiration et une force que j'aurai jamais qui me... Et ça revient à l'idée de la force et de la douceur. Ça revient un peu à ça. C'est ça qui est fascinant de la mère. C'est qu'elle est profondément forte et à la fois profondément douce. Puis je trouve que c'est tellement un bel amalgame.
Moi, je trouve que les hommes, trop longtemps, ont pensé que c'était les plus forts. Trop longtemps, puis je me dis, mais voyons donc, as-tu déjà accouché, porté un enfant, accouché, et toutes ces choses-là dont l'homme, il... ça le fait freaky. Je pense que longtemps aussi, ils ont eu peur de la force de la femme. Mm-hmm. Je pense ça, il faut... Même nous, on a eu peur de notre force longtemps parce qu'on se dit, oh, on est supposé d'être douce et gentil, et c'est nous qui doit coudre. C'est comme, non, coudre ton chandail est brisé, là. C'est, surtout même dans ma coutume, à moi, chez les Inuits, c'est comme, l'homme a son rôle, la femme a son rôle. Mais comme les choses ont changé, les femmes font des choses extraordinaires à ce moment en ayant toujours maman très maternelle parce que c'est vraiment dans notre nature d'être très maternelle très tôt. Alors, je pense que c'est un miracle, la vie.
C'est un miracle. C'est un miracle
on vit des miracles. Tu dis, oh, mais comment j'ai fait ça? C'est fou, là.
C'est vraiment fou. Puis on dirait qu'il ne faut jamais en revenir.
Il
ne faut jamais en revenir.
Puis je pense que les gens réalisent comment c'est le bonheur d'avoir une femme qui est présente, qui lit des choses. On fait des choses différemment aussi, tu sais, qui ont été longtemps vues comme... un peu fragile, où on est émotif. Je dis, mais my God, comment tu ne... Premièrement, est-ce que tu vis 5 jours de règles par mois?
Non,
c'est ça. 5 jours où ton corps, où tu veux juste dormir le premier jour, comme un animal.
Mm-hmm.
On est très connecté à le monde animal, finalement.
Mm-hmm.
On est fatigué, on est comme émotif. Puis c'est ça, on doit gérer. Moi, en tournée, là, je prends la peine de le dire à mes musiciens quand je sens que je suis PMS.
Mm-hmm.
C'est super important pour moi. Puis surtout, l'été, on a même une odeur de notre sang, pas tu sais, notre...
Ouais.
Biologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce corps-là, c'est fait pour accoucher d'un bébé et porter un bébé dans son ventre 9 mois. Alors, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes musiciens, oh, « OK, guys! » Puis ils adorent ça.
Ben oui.
They want to hear. They want to hear qu'est-ce qui se passe, pas juste physiquement, mais mon esprit est où? Parce que c'est une fois par mois où on est comme...
Mais puis c'est...
Chaque mois, c'est...
Il faut tellement pas que ce soit un tabou. Je veux dire, 50% de la population vit ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est ce qui fait que moi, je suis ici.
Ben
c'est ce qui
fait que...
Tu sais, comme à un moment donné, on va...
Pourquoi nier ça?
Ouais.
C'est ta vie. C'est comme... Ça a commencé comme ça.
Exact.
C'est fou quand même. On a cette expérience-là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La femme, moi, là, je de plus en plus... Je pense que j'étais vraiment longtemps avec mes chums. J'étais beaucoup, quand j'étais ado, avec les gars, tout le temps. Mais mes chummies, c'était ma gang de gars, mon cousin, mon frère, et j'étais toujours avec... Parce que c'était vraiment le fun pour moi de pas être dans cette émotivité parce que j'étais peut-être déjà comme ça. Alors, j'ai vraiment nourri mon côté très... pas masculin, mais ce côté... moins compliqué parce qu'ils n'ont pas leurs règles, peut-être pour ça. C'est beaucoup plus... Puis j'aimais ça les brasser un peu aussi, tu sais, comme fille, comme... Ouais. Alors, c'est après que j'ai vraiment découvert le bonheur d'être entre femmes. C'est parce qu'on est tellement libre aussi. Je pense que c'est le fait aussi qu'on j'aimais pas qu'on me catégorise comme fille, tu dois être ci, puis tu dois être ça. Je suis comme, non, c'était ma façon d'émanciper, tu sais, librement parmi les boys qui avaient beaucoup plus de liberté que les filles. Je veux pas.
C'est incroyable.
Je suis pas vieille tant que ça. imagine à ce moment-là.
Ouais. C'est fou qu'on soit encore... puis après ça, je dis c'est fou, mais je dis, à un moment donné, ça revient à ce qu'on disait tantôt, mais comme il faut regarder l'histoire en pleine face, il faut regarder la vérité, mm-hmm. puis malgré la honte que ça peut faire monter, malgré les souffrances que ça peut ramener, faut comme avouer ses torts, regarder derrière, faire « Hey, notre histoire, c'est ça.
Ouais. »
Mais qu'est-ce qu'on souhaite? Ce qui est dur, je pense, des fois, c'est de prendre le temps d'établir des paramètres qui vont faire en sorte qu'on peut se rendre à ce qu'on souhaite comme société sans oublier d'où on vient. Mais ce changement-là se fait pas facilement.
Moi, je dis toujours que les gens, des fois, ils me disent « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? » Il y a beaucoup de choses. Si tu veux réellement faire des choses, des trucs d'action qui sortent de qui tu peux aller voir des centres d'amitié autochtone, par exemple. Tu peux aller s'informer si tes parents, qu'est-ce que tes enfants apprennent à l'école, regarder leurs cours d'histoire. Il y a plein de choses de pouvoir qu'on a, tu sais, en tant que citoyen. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de, comme tu dis, de réellement apprendre son histoire à soi. Puis apprendre que toutes les choses qu'on a en tant que Québécois ou francophone québécois, c'est des choses qui ont été... qu'on a pris des Autochtones qui étaient là avant nous.
Mm-hmm.
Alors, de commencer à comprendre pourquoi quand je mange le sirop d'érable ou le tire d'érable ou des choses qu'on a décidé que c'était typiquement francophone québécois, ce n'est pas vrai.
Mm-hmm.
Alors, je pense de vraiment réfléchir sur la richesse qu'on a eue, qui vient des Autochtones. Je pense que ça, là, c'est une célébration. Ça devrait être une célébration qui va faire que tu vas voir des choses beaucoup moins noir et blanc, mais tu vas plutôt dire, OK, on est vraiment en terre autochtone.
Mais oui. À quel moment, toi, est-ce que tu as grandi avec la vérité? Est-ce que tu as grandi avec l'histoire? Est-ce que ta famille te racontait leurs histoires ou tu l'as su plus tard?
Nos vraies histoires, tout ce qui est la spiritualité, les rituels, à cause de on a été chrétianisés, tout était devenu tabou. Mm. Il n'y a pas si longtemps même qu'il y a des places où ils ont perdu les chants de gorge, parce que les chants de gorge, ça appelait les esprits, ça imitait la nature, des choses que des prêtres pouvaient interpréter comme... Alors, ils l'ont banni, plein de choses comme ça, qui fait qu'on a perdu beaucoup, mais à ce moment, on est en train de réaliser, mais pourquoi on vit comme ça?
Mm-hmm.
Pourquoi on a cette notion-là? Alors, je pense qu'on fait un réel travail, les jeunes, même au Nunavik, au Nunavut, qui ramène tout ça. C'est les jeunes à ce moment parce qu'en plus, ils voient ce qui se passe. Facebook, Instagram, ce que les autres font. Alors, c'est comme ça devient une force, un mari de force. Des femmes qui mettent des tatous au visage, au corps, parce que traditionnellement, il n'y a pas si longtemps, c'était notre façon de marquer notre beauté, les trucs qu'on a achieved,
mm-hmm.
on a accompli. Alors, il y a plein de choses comme ça. Les garçons qui mettent des cheveux plus longs parce que quand ils sont rentrés au pensionnat, la première chose qu'on fait à un enfant, surtout les garçons, il y avait des cheveux longs, c'est de les couper, puis mettre du shampoing, puis dire, OK, toi, t'es sale. Alors, alors, il y a plein de choses comme ça, on est en train de réaliser, mais la chose la plus importante, c'est de comprendre pourquoi on a été silencieux si longtemps. C'est parce que nos oncles, nos parents ont vécu des traumatismes à l'enfance avec le pensionnat. On a tellement dit qu'ils étaient rien, que c'était des sauvages, que leurs parents c'était des sauvages. Alors ils ont appris à avoir beaucoup honte de qui ils sont réellement. Alors, on apprend que nos parents ne sont pas silencieux parce qu'on est des êtres silencieux. C'est parce qu'on...
On les a muselés.
We muted everything, les émotions. Alors, on est beaucoup là-dedans. On est, OK, moi, je veux m'exprimer pour mes parents, au nom de mes parents. On est beaucoup là-dedans. C'est pour ça que ce projet-là, c'était un peu ça. J'ai repris des chansons des gens que j'aime, qui ont écrit des folk songs des années 60-70, comme mon oncle, Willie Thrasher, Willie Mitchell, que j'ai revisité parce que j'ai envie que les gens savent qui sont ces gens-là. Alors, on est vraiment le fun.
Une espèce de renaissance, une réappropriation.
Ouais, une renaissance.
Et en même temps, il y a quelque chose de très généreux aussi de faire... Nos parents ont été muselés, mais sans dire qu'on parle pour eux, mais du moins, on va célébrer leur histoire, notre histoire. On va leur rendre hommage.
Il y a ça. En plus, on n'aime pas trop se faire catégoriser. C'est ça qui est drôle. On est très inspiré par le passé, cette force, cette résilience qui est en nous. Mais en même temps, on a envie de faire des choses comme on a envie de le faire. On veut rester très moderne parce qu'on a toujours été comme ça. Mm-hmm. Tu sais, quand on pense des Inuits, ils inventaient toutes sortes de trucs tout le temps. Ils s'adaptaient avec tout. Les igloos, des outils, des goggles, les premières lunettes. C'est les Inuits qui l'ont inventé.
C'est fou, hein?
Si tu réfléchis. Alors, il y a quelque chose de très... prêt à apprendre tout le
très
temps.
Très créatif.
Créatif. Et il ne faut jamais oublier ça. Alors, quand on nous dit, « Ouais, c'est beau quand tu chantes dans ta langue. J'aime plus quand tu chantes dans... » Au début, j'avais beaucoup de ça. J'ai dit, « Mets-moi pas dans ta petite bulle. Là. Moi, je suis beaucoup plus créative, ouverte et libre que ce que toi, dans ton image, de penser que les Inuits, c'est les glous, il fait froid, puis c'est comme... Il y a autre chose.
Ouais.
Il fait très chaud aussi. Tu sais, on est vraiment des êtres qui sont très naturellement, parce qu'on est proche des animaux, le territoire. Il y a quelque chose de très libre aussi qu'on nous a essayé si longtemps de nous mettre dans un petit cadre, mais c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est admirable.
C'est aller contre qui on est.
Ouais, c'est ça. Mais puis c'est ça qui est arrivé.
Ouais.
C'est qu'on vous a dit, hey, votre manière de vivre, c'est pas correct.
Mm-hmm.
Prenez la nôtre. Puis si vous la prenez pas.
Ce qui est dommage dans tout ça, c'est tout refaire.
C'est ça.
What a waste.
Ouais.
L'argent qui manque va pas à les bonnes choses. À ce moment, ça devrait aller. À la jeunesse, ça devrait refaire toute l'éducation, le système de santé. Il faut revisiter tout ça. Puis surtout, il faut que ce soit les Autochtones qui sont là-dedans, parce que sinon, ça ne marche pas. Tu sais. Mm-hmm. C'est de faire de la prévention. C'est dur parce que c'est du monde qui débarque de Montréal. On dit, OK, ça, il faut inspirer. Et je pense que c'est ça qu'ils essaient de faire le plus possible dans les communautés. Moi, je me sens très coupable de ne pas être là, tu sais.
Mais je pense
de ne pas être chez nous.
Mais je pense que ça revient à la première femme autochtone que tu as vue de voir un spectacle.
Mm-hmm.
Je pense que tu incarnes ça. En tout cas, j'ose croire que ce qui pour toi est une absence, j'ose croire que pour ta communauté, t'es présente. Au contraire, tu les représentes sur des grands plateaux, dans des grandes salles, partout dans le monde. tu célèbres et racontes votre histoire.
Oui, c'est vrai.
Je pense
c'est
que...
Mais il y a d'autres choses
c'est
que
sûr.
J'ai envie de faire aussi et que j'espère que je vais éventuellement faire. Tu sais, donner plus aux jeunes, aux ados qui pensent que leur vie, c'est... Pourquoi finir mon secondaire? Qu'est-ce que la vie va... C'est un peu ça, tu sais.
Mm-hmm.
C'est triste.
Mm-hmm. Vraiment.
Et il faut qu'ils commencent à comprendre qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils ont cette liberté-là, mais surtout leur donner des outils. C'est ça qu'on n'a pas. Tu sais, un centre d'art à Saluit, là, je rêve de faire une place où les petits jeunes qui sont un peu différents, qui ne jouent pas au hockey, comme moi, j'étais nulle à ces choses-là, j'étais perdue parce que j'avais rien devant moi.
Mm.
Alors, c'est sûr, je me suis accrochée à mes professeurs de français qui nous laissaient faire des compositions. Puis, je vivais pour ce moment-là, tu sais.
Ouais, tu parlais de ta professeure de français.
Comme ça. Il n'y a personne qui lève la main, je suis la seule. Oui, OK, je vais lire. OK, je le lis. Ben oui, les profs, il y a des gens extraordinaires aussi dont on n'en parle pas assez, tu sais.
Ah oui. Mais les profs, c'est des... C'est une job qui est tellement importante, tellement primordiale et tellement difficile.
Ouais.
C'est quotidien. C'est un travail quotidien.
Ben oui.
Tous les jours. Peu importe ta journée à toi,
ouais.
Tu as 40 étudiants devant le visage et ils ont toute leur journée à eux et à elles.
C'est incroyable. On ne leur donne pas assez.
Je sais.
T'sais, j'ai des copines, là, parce que j'ai travaillé à l'école dans mon village... comme conseillère aux élèves avec les jeunes.
Ouais.
C'était un peu... Moi, je devais être dans le monde de services sociaux, des trucs prévention, travailler avec des jeunes. J'étais, encore une fois, être le pont entre le directeur et les jeunes. Puis j'adorais ça. Puis, mais les profs, on les valorise tellement pas. No wonder ils font du burn-out à ce moment encore plus. Des amis professeurs que j'ai rencontrés à Saluit, des Québécoises qui sont rendues ici. Puis c'est une et ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, la maman de ma nièce, Elisa. Puis c'est du monde qui travaille, mais on... Il faut les valoriser. C'est tellement important. Mm-hmm. Ils passent leur vie avec nos enfants.
Exact.
Ça n'a pas de sens.
Exactement. Je suis complètement d'accord et c'est la vérité dans ta vie, c'est la vérité dans la mienne. Il y a des enseignants, des enseignantes qui ont été marquants.
Ouais.
Comme seul un enseignant ou un coach peut l'être, tu sais, évidemment que mes parents m'ont inspiré, tu sais, ma famille m'a inspiré, mais après ça, un enseignant ou une enseignante qui donne confiance en toi, qui nourrit le feu que tu as en toi de faire, ben oui, mon Dieu, tu veux participer, on va te faire participer. Tu veux des... Ça peut tellement changer la vie d'un enfant, d'un ado, de se faire considérer que... Et c'est, je pense que si... Et en même temps, je sais rien, je connais rien. Là. On s'entend, je suis loin d'être un professionnel, mais je sais juste que j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation.
Ouais,
ce dont on parle depuis tantôt, ultimement, je te remercie d'être ici parce que tu m'éduques. Tu m'éduques de ton histoire, de mon histoire, de l'histoire de notre pays, de la réalité, de la vérité. Tout part de l'éducation. Puis par la suite, j'ai l'impression qu'on sauverait bien du temps ou de l'argent à d'autres places.
Tu sais, quand t'étais ado, là, tu sais, ma fille, elle a 14 ans et demi, quand on commence à avoir 14, 15, 16 ans, on a l'impression qu'enfin, on a notre sens de pas maturité, mais indépendance, puis on est comme, oh oui, je veux apprendre, je veux avoir l'air, je sais qu'est-ce que je... Tu sais, je sens que ma fille, elle rentre là-dedans où elle a comme ses propres... C'est vraiment important, c'est penser. Puis toi, qu'est-ce que tu as l'impression que tu as manqué par rapport aux, premièrement, les Autochtones? Toi, as-tu l'impression qu'on ne t'a pas éduqué?
On
t'a rien compris.
Zéro!
Jacques Cartier et compagnie.
Ouais,
là.
Exact.
Quand les Blancs débarquent.
Exactement.
Pas avant et pas maintenant.
Et je tiens pas rigueur personnellement à qui que ce soit, tu sais, ou à l'éducateur ou l'éducatrice que j'ai eue. Tu sais, je pense qu'eux, c'est ça qu'ils se sont fait dire.
Est-ce que t'aimais ça, tes cours d'histoire? J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aime ses cours d'histoire.
C'est particulier parce que je pense que ça passe beaucoup par... ça revient à ce qu'on venait juste de dire, à quel point, pour moi, être enseignant, c'est une profession, c'est une vocation.
Ouais.
Moi, il y a des profs qui m'ont fait aimer des matières. Aujourd'hui, j'y pense, mais c'est un miracle que j'ai aimé cette matière-là parce que c'était vraiment, ça ne m'était pas du tout destiné.
Ouais.
Alors que je pense que l'histoire, j'aurais dû... Tu vois, mettons, au cégep, j'ai un enseignant d'histoire de l'art. Qui, tu sais, au cégep, c'est un peu la joke, là. Tu sais, quand t'as un prof, t'as un cours d'histoire de l'art, c'est un peu comme, ah ouais, histoire de l'art, je pense que ça va être plate. T'sais, c'est un peu ça l'idée que t'as quand t'as 17 ans, ou du moins à l'époque, ça fait, je sais pas, là, 12 ans, là, mais. Et mon prof était tellement passionné, il nous racontait l'histoire de l'art comme s'il était présent.
Ouais.
Fait que j'ai adoré ça. Et je me suis retrouvé des années plus tard à me ramasser dans un musée et amener mon cahier de notes d'histoire de l'art pour faire « Hey, j'ai des notes sur cette toile, on va aller la voir » et tout ça. Mais je pense qu'au secondaire, non, on m'a pas raconté la vérité.
C'est dommage, c'est des années, me semble, de jeunesse où... Ah, c'est tellement important. T'sais, ma fille, elle revient. Des fois, elle dit, ah, telle a parlé de Joyce, puis telle nous a montré une vidéo vraiment le fun. J'étais comme, oh, wow, cool. Je pense que les profs, ils font l'effort.
Je pense que oui.
Mais ils ont beaucoup de travail à essayer de convaincre ce système-là qui a besoin de faire des réels changements.
Mais puis ce qui est super difficile, c'est qu'il manque de temps.
Oui.
Fait que... ils ont un programme à suivre, fait que il arrive quelque chose dans la société, c'est comme oh, si on prend 10-15 minutes pour en parler au début du cours, c'est un luxe ou du moins c'est important pour le prof, mais après ça c'est comme hey, j'ai de la matière à offrir quand même, c'est une espèce de c'est super difficile, mais moi je trouve que c'est important de parler aux adolescents parce que sont tellement créatifs, intelligents, plus matures qu'on le pense, puis c'est pas en les infantilisant que ça va aider quoi que ce soit. Au contraire, c'est leur monde.
Mais parce qu'ils sont en train de critiquer de toute façon le curriculum à ce moment, c'est ça qui se passe, parce qu'ils disent, mais voyons donc, pourquoi on nous... Vraiment, tu sais, sont là-dedans, là, parce qu'en tout cas, j'ai reçu quelques lettres des jeunes au secondaire qui me disent « Voici ce que j'apprends, voici, c'est comme... » Je dis « OK. » Alors, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort, tu sais. Je pense que c'est vraiment important dans l'éducation de vraiment croire à cette... Parce que c'est vraiment important.
C'est vraiment important. Et quand ça vient... C'est encore... J'admire tellement leur puissance, leur force aussi de faire... De réaliser « Hey, attends, on m'apprend pas la vérité.
Mm-hmm. »
À leur âge?
Oui.
Moi, j'étais un jeune con, là, à 15 ans, là, je réalisais pas ça. Mais eux, ils ont l'intelligence, la sensibilité, l'ouverture d'esprit, la curiosité de faire « Hey, je pense pas que c'est ça. »
Ouais.
C'est... Enfin, je trouve...
parler de maisons longues, puis c'est comme « Cool, mais... »
What's
maintenant,
up? What's
à
what's
ce
next?
Moment, il y a comme dans les territoires de chaque région à ses propres Premières Nations... ses propres territoires, ses propres langues, c'est comme une richesse. Il y a 11 langues autochtones au Québec, c'est beaucoup.
Ouais.
C'est beau. Avant, il y en avait encore plus, mais c'est juste pour dire que c'est pas l'anglais-français. Il y a 11 langues autochtones au Québec.
Incroyable. Juste au Québec, tu sais.
Tu sais, je me dis tout le temps que chaque école, quand il rentre, un petit jeune, comme mon fils l'année passée, quand il rentrait au maternel, il devrait apprendre, je sais pas, quoi, bonjour, au moins dans une langue autochtone.
Ouais. C'est quoi.
C'était quoi. Quoi. Ça, c'est très commun. Miigwech pour dire merci. Des petits mots, tu sais, juste pour...
Quoi et miigwech.
Ouais, miigwech, c'est... Un... Mais chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est hey.
Hey.
Hey. Hey. Avec les yeux. Hey.
Hey.
Et pour dire merci, tu dis Nakormik.
Nakormik.
Nakormik, ouais. Me semble un enfant rentre à la maison avec ça pour sa première journée, là. Moi, je dis que ça devrait être aussi
mais surtout,
cute que mais ça, oui. Puis c'est pas compliqué.
Exact. Puis le pire, c'est que ça. Tu sais, tu me fais douter après ça. J'imagine si ma prof d'histoire écoute, j'espère qu'elle n'est pas en train de te dire hey, j'ai appris ça, puis c'est lui le con qui n'a pas enregistré l'information. Là, donc, je prends quand même évidemment
non,
ma part de responsabilité.
Moi, je le vois. Je pense que c'est vraiment. Il y en a des places où ils sont beaucoup plus conscientisés, c'est sûr. Mais je le vois, tu sais, j'ai écrit une chanson à l'école il y a 2 ans, j'ai passé beaucoup de temps avec des jeunes, alors je vois qu'il y a une... C'est récent que les jeunes ont accès à ça, autre chose que les... juste autochtones. On les met
ça.
Toujours dans le même panier, là. C'est comme...
Mais surtout, c'est que c'est tellement une culture riche, belle, romantique, douce, charmante, forte, que ça pourrait tellement... C'est tellement... peut-être que je me trompe, là. Mais j'ai l'impression que ça peut être vraiment une matière intéressante à apprendre.
Tellement.
Tellement colorée, puis...
Colorée. Chaque langue a sa façon de décrire des choses qui sont très proches de la nature. Pas la nature il y a 100 ans, la nature qui est encore là, tu sais. Spécificité aussi, tu sais, quand je parle à Florent, par exemple, c'est... Il y a quelque chose de très chantant dans ça. Moi, j'écoute le Innu, là, puis je suis comme... Oh, ça a l'air tellement cool d'être Innu, là. Tu sais, c'est très différent de ma langue ou des Atikamekw. Ils ont... Tu sais, quand... Je pense quand il dit « Je t'aime », ça part de la petite rivière.
De l'eau, exact. J'ai rencontré Jamie Echaquan Dubé.
Oui, c'est ça.
Qui est venu me visiter.
J'étais avec sa mère la semaine passée.
C'est vrai?
Oui, parce qu'on monte, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais on a un spectacle show bénéfice. D'ailleurs, Jamie, elle est là avec son grand-père.
Wow!
Et c'est un show bénéfice qui vient en aide pour le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, évidemment la famille de Joyce aussi, pour monter un super centre extraordinaire qui va être aussi clinique, une petite salle de spectacle, une place où il va avoir de l'art.
Et,
alors c'est pour, évidemment, les Autochtones à Joliette, comme Jamie a expliqué, la moitié du peuple Atikamekw dans 3 réserves ou communautés, il y en a la moitié qui sont à Joliette.
Ouais.
Tu sais, quand tu réfléchis dans les villes, il y en a des Autochtones.
Ben oui.
Alors, ce centre-là, on fait un fundraiser que tu vas sûrement entendre parler. C'est pour le 3 décembre.
OK.
Alors, c'est vraiment un show. Il y a Watson, Ariane, Dominique Fils-Aimé, Jeremy Dutcher, Jamie, Natacha, Florent, Shawit, Richard Seguin, des amis comme ça qui viennent. Puis aussi des témoignages aussi. C'est vraiment un show qu'on
a monté. Ça va être un show virtuel?
Oui, exactement. Okay. Ouais.
Donc, on va pouvoir trouver le lien. C'est quoi le nom?
Ça s'appelle Waskapidan.
Waskapidan.
C'est écrit Waskapidan, mais on dit Waskapidan.
Parfait. On va mettre le lien sur YouTube, du moins.
Ben oui, puis Jamie est là. Mais c'est ça, j'ai vu sa maman parce que j'ai passé mon temps à Joliette la semaine passée. Puis c'est ça, c'est l'eau.
Ben oui, c'est exactement ça qu'elle me racontait. Mais justement, j'ai demandé quelques mots dans sa langue parce que je sais qu'en Atikamekw, comme la plupart des communautés autochtones, la nature est au cœur de la vie, de la spiritualité, et eux, de leur langue. Puis c'est ça, quand tu dis « je t'aime » à quelqu'un, pour eux, la vie, c'est l'eau. Donc, je sais que c'était relié au lac ou quelque chose comme ça.
Ouais, je te donne de l'eau, c'est comme, wow.
C'est magnifique.
Moi, je sais même pas qu'est-ce que... On dit pas « nalivagid » à quelqu'un qu'on aime. On le dit parce que l'éducation a fait aussi... On était une culture orale, alors il a fallu écrire et décrire des choses, traduire des choses.
Mm.
Alors, quand tu dis « I love you », mais tu dis « nalivagid ». Mais « nalivagid », c'est... On dit jamais ça. En fait, t'es toujours avec les yeux. Les Inuits, c'est quand on fait plus. Je t'écoute. Je suis avec toi. On fait beaucoup de. Alors c'est comme t'as pas besoin de beaucoup de mots.
Non.
T'as juste à être.
À être présent.
Tout est là.
Ouais,
à être présent. C'est ça.
C'est une magnifique culture. C'est une magnifique. Il faut vraiment la célébrer. Puis j'ai l'impression que de par tout ce que t'es, c'est ce que tu fais quotidiennement.
Mm.
Puis je t'en remercie. Mm. Merci tellement. Oui. Merci tellement de ta générosité, Elisapi. Ça a été un réel bonheur de te rencontrer.
Moi,
je te disais en début de conversation. que j'étais un peu nerveux parce que je souhaitais que ça se passe bien. Et à la seconde où tu es entré dans la pièce, cette nervosité-là s'est dissipée. J'ai l'impression que, au contraire, c'est weird, c'est mon podcast, mais tu m'as fait sentir super à l'aise. Puis,
C'est
très, très douce et généreuse.
J'aime pas ces malaises-là parce que je les connais trop, tu sais. Alors, c'est comme peut-être ma façon aussi de... It's kind of my job depuis que je suis toute petite, je pense, de vivre avec les deux mondes. Alors, j'ai vraiment appris à être bien dans cette identité. Un nom d'identité à moi, c'est de juste... de tout de suite briser la glace, tu sais. De comme... Non, OK.
J'espère que tu ne pars pas essoufflé d'avoir donné encore, mais d'avoir reçu aussi.
Ah, ben tellement. Je trouve ça génial ce que tu fais. Puis je pense aussi de montrer l'exemple. C'est important de montrer l'exemple. C'est avec ça qu'on avance, on évolue. Puis je pense que c'est vraiment important de donner la place, je ne veux pas dire à moi, mais à nous, mm-hmm. parce qu'on est tous concernés, des Jamie, des Florent, des jeunes aussi, parce qu'il se passe tellement de choses extraordinaires dans le monde autochtone, dans les arts, dans la musique, dans les visual arts, dans des films, dans la littérature, c'est juste dans la danse.
Ouais.
C'est en train d'exploser parce qu'enfin, on nous dit « Allez-y ». C'est votre place aussi. Alors, on a pris cette place-là avec pas un petit... C'est comme... Ça explose. On vomit de cette merde qu'on nous a mis. C'est pas vrai qu'on est ça. Mm-hmm. On est plus que ça. Alors, on essaie de faire quelque chose qui est vrai, qui est brut, parce qu'on avait vraiment besoin de le sortir. Alors, ça sort pas tout en douceur. Ça sort... comme la nature, tu sais. Mm-hmm.
T'es vraiment extraordinaire. Merci tellement.
Merci.
Et
merci.
Longue vie à toi.
Mais j'espère qu'on va se croiser dans un théâtre quand j'aurai 95 ans. Je serai sur scène encore.
Il faut.
C'est comme... Moi, je souhaite... Mon souhait, c'est d'être vieille... puis être en train de faire encore de la création.
Yes.
C'est beau. C'est aussi, on n'en parle pas assez des aînés.
Ouais.
Exactement. C'est là que ça se passe. Chez nous, les aînés, c'est la chose la plus sacrée. Ils sont partout et on les intègre partout parce que sans eux, on n'est rien.
Mm-hmm.
C'est nos profs, c'est les plus drôles, c'est les plus généreux, c'est les plus... c'est les plus rock à la limite, les vrais. Alors, ils sont jeunes longtemps, mais c'est comme ils vieillissent jamais vraiment parce qu'on les laisse prendre la place, tu sais.
Ouais.
C'est nos conseillers, c'est nos profs, et on apprend avec beaucoup, avec peu de mots, mais en observant. Alors, une bonne chose de toujours faire, c'est d'être avec un aîné. Quelqu'un plus vieux. Tu sais, moi, plus que ça va, plus je me dis, oh, j'aurais cette place-là, tu sais. Dans pas long, tu sais, à 50 ans, je peux déjà être quelqu'un qui a de maturité, qui va être encore plus respecté. Normalement, tu vises pour ça, tu sais.
Après, c'est que je trouve que c'est tellement important parce que l'expérience, ça ne s'achète pas.
Mm-hmm.
Puis après ça, je trouve que la jeunesse a une fougue, puis une énergie, puis un désir qui puis ça revient à ce qu'on disait, parler aux ados, parler aux aînés, et de continuer à écouter, parce que les aînés ont quelque chose à nous apprendre qu'on comprendra jamais avant d'en être soi-même. Et les ados ont une vision du monde, puis un souhait pour leur propre vie à eux,
mm-hmm.
qu'on n'a pas le choix d'écouter, parce que c'est vrai que c'est leur. T'sais. Fait que je trouve que cet équilibre-là d'aller chercher... les deux, on a tellement à apprendre. Tellement à apprendre.
C'est clair. C'est quand tu réfléchis à être artiste ou à être un autochtone en 2020, c'est très spécial parce qu'à cause des réseaux sociaux, à cause de tout le monde a envie de dire ce qu'ils ont envie de dire in the moment, comme ça, tu sais, quand j'ai fait mon message à notre premier ministre, c'était in the moment. Mais pas in the moment. J'avais beaucoup pleuré la veille à la mort de Joyce et Chacoan. Puis on est tous concernés, tout le monde. Et je me suis dit, je peux pas accepter que mon premier ministre, tu sais, élu, puisse encore nier, dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. C'est ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait trop mal. Alors, quand je lui ai parlé, j'ai dit, c'est mon aîné, normalement. Alors, tu es supposé de prendre le temps et discuter, mais pas de cette manière-là. Alors, on est toujours un peu perdu là-dedans. Après, je me suis dit, oh, pauvre, c'est un être humain que je suis en train de traiter. T'es né où? Puis tout ça, là, tu sais, les mauvais termes, apparemment, que j'ai utilisés, j'en ai pas beaucoup, mais quelques gens qui disent, mais comment tu oses dire, vous osez de dire tu? J'ai dit, ben, dans ma langue, tu n'existe même pas. Tu fais même pas tu. Alors, c'est sûr que on a une autre vision parce que je parle à lui en tant qu'être humain à ce moment. J'avais besoin de le faire, puis
je pense
c'est toujours un peu scary de tu sais, comme hier, je voyais tous les restos qui sont en train de fermer, tandis qu'il y a deux semaines, je suis allée à Vancouver, on m'a mis entre deux personnes dans un avion rempli, aucune distanciation, on n'a pas pris notre température, je me dis, mais OK... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne nous parle de ça? Personne nous parle de ça. Alors, on est un peu... je pense qu'on a beaucoup d'opinions à ce moment-là, puis c'est pour ça, les aînés, moi, je pense toujours à eux, je dis, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils me diraient, calme-toi, réfléchis. Si tu as vraiment besoin de le dire, fais-le, mais de manière... quand même respectueux, intelligent, pas rusher sur des paroles. Je pense que c'est dangereux de faire ça.
Mais le pire, c'est que toute émotion est bonne à vivre. Après ça, c'est la réaction qui vient avec. Donc, si tu vis de la colère, la colère, c'est parfait. Faut vivre la colère.
Tellement.
Après ça, c'est d'avoir l'espèce de maturité, de trouver le moyen de la communiquer de la meilleure manière possible. Tu sais.
Ouais.
Et je dis ça, et j'ai vraiment pas accompli ça dans ma vie encore. Tu sais. Mais c'est un souhait. Je souhaite devenir ça. Puis c'est ce que je nous souhaite aussi de faire. Il faut partager nos mécontentements.
T'sais, tellement!
C'est tellement important. Puis moi, c'est ce qui m'a touché dans ton message. C'est que je trouvais ça important que tu le fasses et que ce soit entendu. Parce que
j'étais émotif, mais...
Mais tu demeurais... t'étais exigeante et somme toute douce. Et on sentait toute ta sincérité.
Ouais.
Et c'était tellement... tu sais, moi, ça m'a... Je me souviens, j'étais où quand je l'ai écouté, tu sais, puis j'ai versé quelques larmes, puis ça m'a... Puis de savoir que, ben notre leader dit que le racisme systémique n'existe pas, là, c'est comme, tu sais... Je sais pas faire de la politique, c'est pas ça mon métier du tout.
Moi non plus, hein.
Tu sais, mais on peut pas fermer les yeux là-dessus, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme ça ralentit.
Il faut dire des choses pour que les gens puissent avoir une place pour dire, ok, je suis d'accord avec ça. Ça a pas de sens. S'il y a personne qui dit, ben on est tous dans une malaise.
Exact.
Alors à un moment donné, j'ai dit, il faut le dire. Puis c'est vraiment important. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention aussi que le Facebook ne devient pas notre psychologue.
Non.
Je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Avoir une opinion, c'est important. Mais je pense qu'il y a des choses que tu dois régler dans ta vie, que tu le fais. Mais il faut faire attention de ne pas leader les gens encore plus fragiles que toi dans un truc de « Ah, oh, je suis victime.
Mm-hmm. »
C'est vraiment dégueulasse, le Facebook, pour ça. Les réseaux sociaux, c'est dégueulasse pour ça.
Ouais.
Mais il y a des très bonnes choses aussi, parce que c'est ça qui a permis que les gens puissent dire « OK ». Ou les jeunes puissent voir qu'est-ce qu'un jeune au Nunavut fait quand il est au Nunavik. Il y a quelque chose de... Pour ça, c'est extraordinaire.
Moi, ce que j'aime le plus, c'est ce genre de rencontre-là. Ce lieu-là qui... dans le fond, j'utilise les réseaux sociaux pour que les gens se rendent ici, tu sais. Ouais. Et dans ma tête, les gens qui écoutent le podcast sont autour de la table avec toi puis moi, tu sais.
Ouais.
Donc, je pense qu'il n'y a jamais meilleure manière d'échanger que face à face, calmement, respectueusement, tu sais. Ouais. Puis après ça, je comprends qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça et tout ça. Puis les réseaux sociaux, c'est pas du tout ce lieu-là. Non. Mais faut être plus doux les uns envers les autres. Il faut être plus empathique, faut être s'éduquer mutuellement, avoir cette patience-là. Puis je dis pas que c'est la job de tout le monde. Tout ça avec nos propres limites personnelles.
Ben oui. Mais... C'est juste que moi, c'est pas vrai que les gens dans Facebook, c'est mes amis. Non, c'est vraiment...
Ouais.
C'est quand on décide d'être amis, cool, mais j'ai même pas le temps de voir mes amis dans la vie, tu sais, à ce moment. Alors, je pense que c'est très le fun de prendre le temps de... que tu donnes cette place-là aussi, de prendre le temps.
Mais de là, je te remercie de ta générosité parce que j'ai l'impression que si je parle que pour moi, tu m'éduques à une réalité que je connais pas suffisamment et à laquelle je dois être plus empathique et actif aussi dans son changement. Donc, je te remercie profondément.
J'ai confiance que tu es à la bonne place, à la bonne route.
T'es vraiment, vraiment gentil, Lisa, puis merci tellement.
Merci. Nakormek.
Nakormek.
Ah, avec les yeux.
Nakormek.
Oui.